Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le fait que ce soit simplement le quatrième club, alors certes, non, c'est pas inédit, mais ça remonte au calanque hein, quand même.
Après, il nous avait déjà montré qu'il était capable de faire une seconde partie de saison canon et de finir justement en boulet plus que de canon.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur RMC. Bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Et Will After est là comme tous les soirs jusqu'à minuit sur RMC. Génération After de 20h à 22h. Et l'After tout court de 22h à minuit avec les anciens, avec animé par un vieux de la rédaction, Thibaut Jean-Grand. Bonsoir Thibaut.
Le concept tient pas ce soir.
Le concept ce soir tombe complètement à l'eau. Thibaut, 18 ans.
Ouais.
Une très grosse voix.
J'ai Roland avec moi, ça fait une petite moyenne du coup, donc c'est bon.
Thibaut, dans un instant, ton programme à partir de 22h avec Kevin Diaz, coach Courbis. D'abord, je présente le casting du soir. Simon Lutin est avec nous. Salut Simon.
Salut Nico, salut tout le monde.
Jonathan Macardy, bonsoir Jonathan.
Salut Nicolas.
Bah, écoute, on s'était pas revus depuis la rentrée.
Quel plaisir.
Tu as grandi.
Ah bon?
Tu as changé, tu as mûri, j'ai l'impression aussi. Tu t'es épaissi aussi.
Ah bon?
Tu pousses beaucoup trop de fonte, on te le dit chaque semaine.
Pourquoi? Je m'entraîne sérieusement.
D'accord. C'est un plaisir de te retrouver, Jonathan, ce soir dans Génération After. Dans un instant, les dernières informations sur l'affaire Pogba. L'équipe de France également au programme. Simon, tu penses qu'après la victoire contre l'Autriche, Deschamps a plus de certitude qu'avant ce match pour le Mondial? Mbappé, lui aussi, s'estime plus libre en bleu qu'au PSG. C'est ce qu'il a dit hier, expression d'une frustration à Paris. Est-ce une réalité? On en débat, on vous attend au 32-16. Et puis à 21h également, Lyon. L'OL dément l'ultimatum fixé à Peter Bosz d'ici la trêve. On maintient notre information. Il faut 17 points à prendre sur 21. Peut-être tenir cet objectif. On vous attend également, supporters de l'OL, au 32-16. Et puis, avis de Jonathan, dans le 21h-22h, comme on dit. Pablo Longoria est en train de professionnaliser l'Olympique de Marseille. Il paraît qu'il y a des tensions dans les bureaux dirigeants. Tu vas nous en dire plus, Jonathan, tout à l'heure. Et donc, Thibaut Jean-Grande, à 22h.
J'ai une petite question, Jonathan. C'était mieux les afters avec Nicolas Jamin avant le vendredi ou cette année maintenant? C'est quoi le mieux?
C'est vraiment un fouille pipe. Hein.
Le programme, donc 22h, l'équipe de France, bien sûr, avec Kevin Diaz et Roland Courbis, Kylian Mbappé au programme. Coach nous fera un avis. Il a préféré l'équipe d'hier, avec beaucoup de remplaçants, par rapport à l'équipe titulaire à l'Euro l'année dernière.
Avis qui rejoint Simon un peu, peut-être.
Sans aller jusque-là, mais effectivement, moi je me suis régalé hier.
Donc ce sera entre 22h et 23h. Des nouvelles de Nice, la surprise du jour, Lucien Favre finalement qui va rester. Alors, il va peut-être pas rester jusqu'au bout de la saison, mais il reste en poste pour quelques matchs au moins. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, la mini? Soit on vous attendra au 32-16. Et puis on prendra des nouvelles vers 23h30. Vous vous rappelez, ces supporters des Bleus qui sont partis à vélo au Qatar il y a un peu plus d'un mois. On les avait eus juste avant leur départ. Ils sont à mi-chemin, mi-parcours. Ils sont en Turquie ce soir. On leur passera un coup de téléphone. Ils ont fait la moitié du chemin. Ils ont leur billet en poche, leur chambre air sur les épaules et ils font leur petit périple. Donc,
magnifique ça.
À partir de 23h.
Mais moi, s'ils vont pas passer par des endroits un peu dangereux, non?
On leur posera la question. 23h.
Non, mais c'est blague à part, ouais.
Ah, bah oui, tu traverses.
Tu sais quelle est la différence entre Nico Jamin et toi quand même? Il fait que Nico reste au-dessus pour l'instant.
L'âge, ouais, les 15 ans d'écart.
Les goûts musicaux, parce que toi, tu sais pas ce que je dois subir maintenant avec lui.
Ah, si, je connais Thibaut depuis très longtemps.
Non.
Tu sais que le film culte de Thibaut Jean-Grande, il était au cinéma beaucoup de fois dans sa vie, il est sur toutes les plateformes. Son film 5 étoiles, c'est Incognito avec Benabar.
Bien sûr, Benabar.
Tu vois le truc?
Franck Dubosc. C'est vraiment un truc sous-côté.
On balance le dossier. Thibaut, à tout à l'heure à 22h avec Coach Courbis et Kevin Diaz. Génération After, c'est parti.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
On nous appelle bien sûr au 32-16 pour débattre avec nous, Simon, Jonathan. Le hashtag RMC Live sur Twitter et l'application RMC Sport Direct Studio pour envoyer vos commentaires. Ça devient Génération After, presque phase d'entrée à l'accusé. Chaque jour, on revient sur des affaires plus ou moins sordides.
Jamais raconte.
C'est exactement ça. Après les révélations mercredi dans l'affaire Aminata Diallo qu'on vous a faite, de nouvelles infos dans l'affaire Pogba. Nico Pelletier est avec nous. Salut Nico.
Salut Nico. Salut à tous.
Journaliste de la rédaction de RMC Sport. Nouveaux éléments RMC Sport. Nico, on apprend ce soir qu'un membre du staff de la Fédération Française de Football savait depuis mars que Paul Pogba était menacé.
Alors on va resituer un peu. On savait que Mohamed Sanadji avait été auditionné par les enquêteurs le 9 août dernier. Ça, on le savait depuis plusieurs semaines.
Mohamed Sanadji,
c'est le responsable de la sécurité de l'équipe de France, qui est un officier de police détaché auprès de l'équipe de France pour assurer la sécurité que de l'équipe de France a. Et donc, Mohamed Sanadji a été auditionné le 9 août dernier. On s'est procuré le procès-verbal d'audition de Mohamed Sanadji. Et c'est à cette occasion qu'on apprend que un membre du staff de l'équipe de France, donc Mohamed Sanadji, était au courant depuis mars dernier. Dans ce procès-verbal, il y a plusieurs phrases importantes. Tout d'abord, depuis quelques mois, je vois Paul assez préoccupé et n'arrivant pas à franchir le pas. C'est en ce début d'année, vers le mois de mars, il m'a dit qu'il vivait une situation particulièrement difficile. On rappelle le mois de mars, dans la nuit du 19 au 20 mars, c'est dans cette lors de cette nuit-là que Paul Pogba aurait été enlevé par plusieurs individus. Il y a d'abord par téléphone et ensuite on a échangé à Clairefontaine. C'est lors du rassemblement du 21 mars que Mohamed Sanadji a échangé avec Paul Pogba à Clairefontaine lors de ce rassemblement.
Nico, ce qui se passe en mars, il profite d'être à Paris pour retourner dans son quartier.
C'est ça.
Devant chez lui, où il a beaucoup d'amis encore une fois.
Et dans ces deux auditions, il y en a une le 16 juillet devant les enquêteurs italiens, il y en a une le 3 août, si je ne dis pas de bêtises, devant les enquêteurs français. Et lors de ces deux auditions, Paul Pogba raconte cette nuit entre 22h et 4h du matin où il est resté dans un appartement de la région parisienne. On va peut-être le détailler plus tard, mais c'est lors de cette audition du 3 août qui revient sur cette nuit-là. On revient peut-être à Mohamed Sanadji avec le procès-verbal. Il dit plusieurs choses importantes. Dans le cadre de mon rôle, donc le rôle d'officier de sécurité, je lui ai dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi et que je devais faire suivre ces informations. Il ne précise pas à qui il a fait suivre ces informations, si c'est à Didier Deschamps, si c'est au président de la Fédération française de football. On rappelle que Mohamed Sanadji est détaché auprès de la Fédération et donc il doit rendre des comptes à la Fédération en cas de problème.
Il ne précise même pas s'il l'a effectivement fait.
Il ne précise pas lors de son PV et la question n'est pas posée parce qu'on a eu le PV entier et la question n'est pas posée par les enquêteurs.
Je pense que s'il a des comptes à rendre, ce n'est pas forcément à la Fédé, mais plus à sa hiérarchie dans la police.
Et c'est ce qu'on en discutait hors antenne, il doit aussi rendre des comptes parce que c'est quand même un officier de police, il doit rendre des comptes
c'est
à sa hiérarchie. Je ne peux pas te le dire, c'est noté dans le PV, mais
il a forcément un N+1 qui est acquis.
Donc c'est ça aussi qui est important.
C'est prévu par la loi. Il y a l'article 40 du code de procédure pénale qu'on a consulté tout à l'heure. Et il y a même dans le code pénal un délit de non-dénonciation de crime qui, lui, peut être sanctionné alors que l'article 40 du code de procédure pénale.
Voilà, et pour parler à tout le monde, l'article 40, on l'a souvent cité dans l'article de SoFoot où des infractions avaient été commises, des infractions présumées ont été commises à la fédération et personne n'a signalé ces infractions. Donc voilà, c'est pour resituer le contexte. Et après, il raconte plusieurs moment, Mohamed Sanadji, quelles sont les relations avec son frère. Les enquêteurs posent la question. Il dit aujourd'hui, il a coupé les ponts avec son frère lors de son audition du 9 août. Est-ce qu'il a exprimé que ces gens-là avaient pu lui rendre service ? À aucun moment, parce que quand je lui parle du sujet, qu'il me parle de protection, je lui demande s'il y a eu un contrat ou si c'est une vraie société de sécurité. J'ai su ensuite que Paul avait été bloqué par la bande dans un hall d'immeuble et ça, Paul Pogba le confirme lors de son audition devant les enquêteurs. Voilà, il y a plusieurs moments important dans ce PV que vous pouvez lire sur rmcsport.fr.
Même et on voit à Manchester chez lui.
Il a une volonté
de nuire et de suivre.
Ils sont venus à Manchester et ils sont venus à Turin. Ouais, donc
c'est pas juste on profite qu'ils sont en France, qu'ils passent au quartier pour mettre un coup de pression. C'est vraiment on se bouge les fesses pour aller l'enquiquiner jusqu'à son lieu de résidence.
Bon, ce qu'on comprend d'abord, Nico, déjà dans ce compte rendu de ce PV de Mohamed Sanadji, c'est que Paul Pogba, selon Mohamed Sanadji, a eu très peur pendant toute cette période de mars à aujourd'hui, effectivement, qu'il le dit.
Il le dit,
Et qu'il avait peur également, c'est ce qui a freiné peut-être son envie de témoigner, de faire remonter cette affaire, peur d'être considéré comme une balance.
C'est la phrase de ce PV où il a très peur quand il vient témoigner vers Mohamed Sanadji, quand il témoigne du récit des faits présumés. Et donc oui, il raconte, il dit, mais il avait peur d'être considéré comme une balance. Il m'a dit de façon assez évasive qu'il avait déjà offert des restaurants, etc. à tous ces individus. Donc voilà, c'est...
Des restaurants,
quand
tu dis,
c'est pas un repas.
Non,
hein,
non, c'est des restaurants.
C'est lui a financé notamment l'établissement.
Et le fonds de commerce de certains établissements.
Alors aujourd'hui, on a réussi aussi, Nicolas, à mettre la main sur les auditions donc, de Paul Pogba devant les enquêteurs italiens et français, les 16 juillet et 9 août. Elles permettent d'y voir plus clair sur dans cette obscure affaire de chantage et de séquestration.
En fait, tout se déroule entre le 19 et le 21 mars. Donc le 19, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lorsqu'il revient à Paris. Paul Pogba profite de ce passage pour aller faire un tour dans la cité où il a grandi. Il apprend que la mère de l'un de ses amis est malade. Il décide d'aller la voir. Et en bas de l'immeuble, un homme l'attend. Cet homme, il le connaît. C'est un de ses amis d'enfance. Sa proposition est assez curieuse. Paul s'en étonne. Il lui dit « Tu vas venir à avec moi, laisse ton chauffeur. Le chauffeur, c'est celui qui accompagne toujours Paul Pogba dans tous les déplacements. On nous l'a rapporté. Il y a un individu qui accompagne toujours Paul Pogba. C'est souvent le cas dans les footballeurs. Paul est rassuré par la présence de ses autres amis d'enfance parce qu'il connaît la moitié de ces individus qui sont dans ce hall d'immeuble. Il trouve les propos de son copain assez curieux quand même. Il y va, destination inconnue, peut-être dans le 94, déclare-t-il devant les enquêteurs français. Il se rend dans un appartement, un autre ami d'enfance lui ouvre la porte. Pogba est contraint de laisser son téléphone et dans cet appartement, il voit 5 personnes, les 5 individus qu'on a dévoilé les noms sur rmcsport.fr il y a quelques temps. Et donc, 5 personnes que Paul Pogba connaît parfaitement, ces 5 amis d'enfance, comme on les appelle. Et c'est à partir de là où tout s'enchaîne dans la nuit du 19 au 20 mars dernier.
Et c'est là qu'il est braqué également.
Exactement. Il le dit plus tard dans son audition, la suite, il dit: deux gars entrent dans la pièce, ils portaient des cagoules sur le visage, des gilets pare-balles, l'un était armé d'un fusil d'assaut type M16 et l'autre d'un fusil à pompe.
Voilà. Et là, à ce moment-là, il leur dit: oui, ok, je vais vous faire le virement que vous me réclamez, que vous m'imposez, à savoir 13 millions d'euros.
Paul Pogba dit: ils m'ont demandé 13 millions d'euros, 3 millions en cash, 10 millions en virement. En étant braqué sous la menace, je leur ai dit que j'allais payer. C'est ce qu'il dit devant les enquêteurs. J'ai voulu parler, mais il criait: ta gueule, baisse les yeux. Selon Paul Pogba, il reste 5 heures, entre 23h et 4h du matin dans cet appartement. Et le 20 mars, la suite de cette affaire, il appelle sa banque. Boubacar est à côté de lui, c'est l'homme qu'on lui avait affecté à, entre guillemets, sa protection pendant les jours qui suivent. Il demande 11 millions d'euros pour faire une sorte d'investissement, c'est ce qu'il dit devant les enquêteurs. Et là, c'est intéressant, c'est il dit: je voulais que ma banque comprenne qu'il y avait un problème, mais je ne pouvais pas leur dire car Boubacar était là.
Voilà, ça fait froid dans le dos. C'est la version de Paul Pogba, hein, je précise bien. Il faut toujours rester extrêmement prudent. En tout cas, c'est ce qu'il a déclaré devant les enquêteurs italiens et français. Et puis bon, pour finir, nos confrères du Parisien, aujourd'hui, ont mis la main sur un message audio de Mathias Pogba envoyé à son frère Paul un mois avant le début de l'affaire. Il dit: maintenant, c'est très simple. Tu vas leur faire le virement qu'ils ont demandé au plus vite, sinon devant Dieu. J'appelle le daron de Mbappé et tous les médias du monde. Je leur raconte tout en détail, est-il encore écrit.
Et il dit aussi que la prochaine, ça pourrait être la daronne. Donc la menace aussi sur la mère des deux frères.
Voilà les gars, une réaction peut-être. Quelle semaine.
C'est quel mois. Une histoire digne d'un film qui fait froid dans le dos, dans la mesure où, je trouve personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait pitié en fait, ça fait vraiment beaucoup de peine. C'est l'histoire classique d'un mec qui réussit, qui n'arrive pas à vraiment se détacher de là où il vient. Alors on peut trouver ça louable. Souvent on dit c'est important de rester avec ses racines, etc. Mais dans certains cas, ça peut vite devenir un poison. Et là concrètement, on voit l'histoire d'un mec qui est multimillionnaire par son talent sur le terrain, mais qui manque visiblement beaucoup de discernement et de jugeote quant à la construction de son entourage et quant à ses fréquentations. Je pense
parfois
que
parfois t'as pas le choix.
Parfois t'as pas le choix, mais en quoi, Nico, en quoi on l'a obligé à retourner dans la cité d'où il vient? Personne ne le force à maintenir du contact avec des gens de son passé.
Attends, tu dis c'est l'histoire classique. C'est pas le premier joueur qui a confiance dans son entourage.
Non, c'est pas fini, mais peu importe, mais. Le problème, c'est que des exemples comme ça, il y a pas forcément la tournure dramatique que prend le cas Paul Pogba, mais on en connaît plein. Il y a un joueur qui était en équipe de France, qui jouait à Rennes, qui était international, qui avait pour habitude de revenir dans son quartier, il garait sa grosse Bentley devant pour aller fumer des chichas avec ses amis. Ça, tout le monde le savait, mais je te dis pas que ça a mal tourné, mais je te dis juste que c'est des habitudes qui sont nuisibles pour ta carrière, et ça, je peux comprendre que ces joueurs-là veulent garder leur ancrage avec leurs racines, etc. Mais dans la majorité des cas, ça tourne mal parce qu'il y a toujours la jalousie qui est humaine, l'envie et le fait de se dire que tu peux faire un coup sur un gogo, malheureusement.
Enfin, effectivement, tu parles d'histoire classique. Heureusement que ça tourne pas mal. C'est effectivement pas le premier joueur qui conserve des ancrages, des amitiés, des liens avec son quartier d'origine. C'est pas le premier joueur qui est un peu parasité par des mecs qui ont un horizon un petit peu bouché, qui effectivement vivent un peu à ses crochets. Là, on parle. Et attends, c'est pas 100 balles par-ci, 100 balles par-là. 13 millions d'euros.
Bien sûr.
Donc, ce qu'on apprend là-dedans, c'est que, et c'est très nébuleux. Il faut bien quand même le reconnaître, on a du mal en lisant même le rapport de l'audition de ce Mohamed Sanadji qui nous révèle des choses, mais qui finalement Ouais, ça reste assez flou. Et il y a des contradictions parce que on parle de connaissances liées au quartier de Pogba, mais lui il nous dit que Pogba lui suggère que ça peut venir de mecs basés à Dubaï aussi. Alors on ne sait pas quelles ramifications ça a. Ce qu'on apprend tout de même, c'est que il sous-entend, il dit depuis quelques mois, je vois Paul assez préoccupé. Et ensuite il dit et ensuite en début d'année, vers le mois de mars. En gros, il finit par me cracher sa valda. Donc, en gros, il t'explique que lui, ça fait plusieurs mois qu'il voit Pogba préoccupé, qu'il le sent préoccupé. Il nous dit également, je vois des mecs un petit peu bizarres dans les tribunes pour qui il a réservé des places au Stade de France. C'est quand même, encore une fois, par rapport à ce qu'on vient de dire avec Jonathan, pas la première fois que tu dois voir des copains d'un joueur de l'équipe de France qui viennent au Stade de France. Donc, pour que lui, il les trouve suspects, c'est que ces gars-là, ça doit être des loustiques ou qui doivent, je sais pas, en tout cas, en avoir l'air. Pogba, ce qui est ahurissant, c'est qu'on apprend qu'il a essayé de payer, en fait. Oui. C'est qui prouve bien effectivement le délire.
Ou alors il explique qu'il a fait mine de payer.
Il a fait mine de payer pour alerter sa banque.
J'ai une question, Nico, parce qu'il y a une version aussi selon laquelle il avait retiré l'argent à la banque, mais que son plafond de retrait était de 100 000 euros. Ça c'était dans la première version.
Non mais ça
parce que là on parle d'un vilain.
Nico, je crois qu'il y a une phrase importante. Il s'adresse à son banquier, je crois, ou à sa banque.
C'est ça.
Il dit j'ai besoin de faire un virement de combien de millions d'euros ?
De 11 millions d'euros.
11 millions d'euros.
11 millions d'euros. Parce qu'en fait ils lui ont demandé 3 millions en cash et 10 millions en virement.
D'accord.
Donc c'est pour ça.
Mais il y a quand même une chose qui est frappante.
Mais après, il ne faut pas confondre avec l'histoire de la carte bancaire où on lui a volé 200 000 euros.
Oui, bon, ça, c'est
allez, on finit là-dessus.
Et on rappelle que la ministre Amélie Oudéa-Castéra, ce soir, rappelle son envie d'exprimer sa solidarité avec Paul Pogba. C'était sur BFM TV.
Merci, Nico Pelletier. À très vite sur RMC. Dans un instant, on va parler de jeu, de football, ouais. De profil, de l'équipe de France, surtout après sa victoire 2-0 face à l'Autriche. Simon, tu estimes que Deschamps a peut-être trouvé de nouvelles garanties très intéressantes à 58 jours du Mondial au Qatar. A tout de suite, c'est Génération After, 20h18.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After RMC. Merci d'être avec nous, il est 20h20. Simon Dutin et Jonathan McCarty à mes côtés jusqu'à 22h, messieurs. Pour être complet sur le dossier Pogba, rapidement, c'est une des révélations du jour, puisque son frère Mathias Pogba a publié, bien qu'actuellement incarcéré, une série de tweets vidéo sur son compte. Il accuse Paul Pogba d'avoir marabouté Mbappé pendant PSG Manchester United, 2019, on se rappelle, des traumatismes du PSG, 3-1 au Parc des Princes, match retour de Ligue des Champions. Un marabout qui se ferait appeler le grand. Voilà, c'est tout.
Ça vole pas haut, hein.
Oula, mon pote.
Non, mais là, franchement,
fond du fait tout. Ouais. Bon, l'équipe de France, messieurs, l'équipe de France, victoire 2-0 donc hier sur l'Autriche, qui fait du bien à tout le monde dans ce contexte morose, s'il en est, et à 2 mois du mondial. Et toi, Simon, tu estimes qu'après ce match, le sélectionneur Deschamps a peut-être plus de certitude qu'avant ce match.
Alors, pourquoi ? Évidemment. Tout ça doit être rapporté au contexte. On a pleuré toute la semaine. Ça fait 15 jours. On dit, oh, Deschamps, il aura pas, il y aura Benzema, il sera blessé. Ancelotti, il a dit, regardez, il ira pas. Ah, Benzema est pas là. Kanté, Pogba sont pas là. Pogba, il ira peut-être même pas au mondial. Est-ce qu'on reverra le vrai Kanté? Griezmann, il joue pas en club. Quand il joue en bleu, il est mauvais. Hécatombe en défense. Hernandez, x2. Kimpembe, Konaté sont pas là. Mais comment on va faire? Giroud, il est là juste parce que Benzema est pas là. Bon, en gros, rien de ce qu'on allait voir n'allait de toute façon nous servir pour le mondial, puisqu'en gros il y avait quoi, 6 champions du monde je crois 2018 dans le groupe, et que ceux qui étaient là, en gros ils étaient là parce que il fallait bien quand même faire une équipe. Bon, au final on gagne 2-0, on prend pas de buts, on concède quasiment aucune occasion. Les deux buts, c'est nos deux attaquants qui les mettent sur une passe du troisième pour le but de Giroud. On va pas revenir, évidemment, tout le monde a fait ses choux gras, et maintenant, évidemment, tout le monde vénère Olivier Giroud, qui a fait poser un genou à terre à tout le monde et à la France entière. Bah, quand même, là, franchement, s'il y a encore un débat sur le fait de, mais ce sera.
Il y a le débat, il existe encore.
Oui, on aura Deschamps, il va falloir bien nous le vendre, quand même, de laisser Giroud à la maison. Tu peux regarder, d'ailleurs, à ce titre-là, qui accompagne Giroud dans le classement des 10 meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, et tu m'expliqueras lequel de ces joueurs on a autant poussé vers la sortie que Giroud, on aurait aimé autant.
On en parlera après, c'est une question de profil, de complémentarité, tu sais aussi.
Ce que j'ai aimé hier, c'est que, on a retrouvé un Raphaël Varane. Alors là encore, lui, il est sous-respecté, hein, notre ami Varane. Mais c'est bien français, ça. Hein. C'est un totem pour moi. C'est un, évidemment, c'est un pensif, c'est un leader de cette équipe de France. Il a gagné, Manchester a gagné tous les matchs qu'il a débuté cette saison, a perdu tous les matchs qu'il n'a pas débuté cette saison. Hier, il a été impérial dans un rôle qui, je trouve, est, lui convient parfaitement. Ce milieu de terrain, alors Pogba Kanté, c'était donc le meilleur milieu de terrain du monde, en tout cas dans les grands tournois. Je pense que Tchouaméni, il a gagné désormais une place de leader. Même, je pense que même si Pogba revient avant le mondial, c'est Tchouaméni qui, moi, c'est le pari que je vous fais, il débutera. Il confirme qu'il a pris une dimension exceptionnelle. Avec un Fofana derrière, on se disait, bon, on espère qu'il va pas trop se rater pour sa première. Heureusement, il est avec son copain Tchouaméni. Bon, on l'attendait à la récupération, à la couverture. Il a été, je trouve, dans la projection, pas mal du tout. Pas encore au niveau du meilleur Kanté, mais pas mal du tout. Et puis Griezmann, bon, alors les rageux diront encore qu'il n'est pas efficace, que c'est plus le vrai Griezmann.
Il a des stats là sur le match. Il fait une passe. Il a fait de la stat.
Il fait, ouais, mais justement, moi, je trouve qu'il a une importance fondamentale dans cette équipe et que dans certaines phases, quand il revient en position de 6, voire de 8, voire de 6, que sur. Il aide à la relance sur une touche, une remise, il fait remonter l'équipe. Je trouve qu'il a une importance vraiment fondamentale.
Mais ça, juste une parenthèse là-dessus sur Griezmann, je pense que s'il veut continuer à jouer au très haut niveau, sachant l'âge qu'il a, sachant le nombre d'années de joueur de foot qu'il a derrière lui, il faut qu'il fasse un truc à la Schweinsteiger. C'est-à-dire qu'il se resitue plus bas sur le terrain et je pense qu'il a les qualités pour jouer dans ce registre-là, beaucoup plus bas sur le terrain.
Je pense qu'il en est capable. Et pour terminer, Nico, c'est un petit clin d'œil au débat qu'on avait mercredi. En 10 minutes, sur une action, mais alors de classe folle, je trouve que Dembélé a prouvé que Deschamps avait raison d'envisager qu'il pouvait dépanner en 10 parce que vous vous souvenez de cette dernière contre-attaque là. Tout le monde s'attend à ce qu'il donne la balle à Nkunku à droite. Il te la croise pour Mbappé, c'est une passe d'une classe incroyable et je pense que effectivement dans une fin de match où il y a plus d'espace, il peut faire vraiment un carnage en 10.
Alors Jonathan, as-tu des réserves par rapport au constat et à l'optimisme de Simon ?
L'optimisme de Simon est contagieux. On sent qu'il a passé une bonne soirée et on a envie d'être avec lui, de lui dire écoute, c'est super mec, mais en vrai, c'était juste un match après une série de matchs catastrophiques. C'était un match contre une faible équipe d'Autriche, j'ai trouvé. Il y a certes des bons joueurs de Bundesliga, etc. Mais sur le match d'hier, ils n'ont pas été du tout au niveau. C'est un match qui, pour moi, me laisse un petit peu pantois dans la mesure où je pense que tu le gagnes sur le talent individuel, pas sur le talent collectif, et où tu le gagnes parce que t'as des joueurs qui ont pris conscience qu'il y a eu 4 matchs d'affilée de perdus et qu'à mon avis Deschamps a dû dire maintenant faut arrêter les conneries, on met le bleu de chauffe et voilà, on va faire preuve de beaucoup d'envie. Et ce qui me dérange un petit peu avec les Bleus, c'est que peu importe qui joue, qu'il y ait des blessés, qu'il n'y ait pas de blessés, le réservoir en termes de qualité est tellement profond et dense que tu peux avoir 3 blessés à un poste. Bah Deschamps a la fameuse chatte à Dédé d'avoir toujours un joueur qui soit compétitif pour mettre sur le terrain. Alors ça passe contre l'Autriche, mais moi ce qui me dérange, c'est qu'en termes de plan de jeu, j'ai pas encore vu un collectif très très huilé. Ça dépend toujours un petit peu de la même chose, ça dépend toujours un petit peu d'exploits individuels. Alors certes, je peux entendre l'argument selon lequel on me dira oui mais avec les blessés c'est difficile, mais le problème c'est que le fait de pas avoir de plan de jeu et de juste se résoudre au talent individuel, ça dure depuis bien trop longtemps, ça dure depuis l'Euro, et là moi sur ce match là je vois rien de nouveau si ce n'est des joueurs très motivés après 4 défaites d'affilée. Après en revanche, je partage pas l'intégralité de ton optimisme, donc, mais je veux bien te rejoindre sur certains points. J'ai adoré les débuts de Fofana. Je pense que un joueur comme ça fait mal au cœur, mais un joueur comme William Saliba montre qu'il a le costume d'un titulaire dans cette équipe. Il n'y a pas de doute à avoir
titulaire
là-dessus.
Équipe de France.
Ouais, je pense. Je pense qu'un joueur comme Raphaël Varane, qui est sur le déclin, de jouer dans une défense à 3, ça le met en valeur, même si c'est vrai, il fait un bon début de saison avec Manchester United. Et il va avoir la question qu'on va aborder après, il me semble, de Kylian Mbappé. Alors, on va mettre de côté ses déclarations d'après-match. Moi, j'ai pas trouvé qu'il faisait le match extraordinaire que tout le monde a décrit. Il fait un très bon match. On voit toute sa classe sur le but. Mais dans ce rôle de joueur qui est un petit peu, alors je vais pas dire playmaker pour Paterna Manico, mais un petit peu de créateur qui prend un petit peu les manettes, j'ai trouvé qu'il y avait eu quand même pas mal de déchets, il manque de clairvoyance. Et moi, il y a une question qui se pose, c'est ce système-là, ce rôle de Mbappé-là, quand tu auras Benzema, parce que le débat, c'est pas de savoir comment t'articules Giroud et Benzema, mais pour moi, le débat, ça a toujours été de savoir comment Griezmann, Benzema et Mbappé, 3 joueurs qui aiment occuper la même zone sur le terrain, sont complémentaires. Je demande à voir, parce que pour l'instant, sur le match d'hier, ça m'a pas apporté beaucoup de réponses.
On fait une pause, Simon. Tu pourras répondre dans un instant à Jonathan. Vous pouvez nous appeler également au 32-16 pour donner votre sentiment après cette victoire des Bleus hier. Alors évidemment, on n'est pas en train de monter les Bleus tout en haut à 2 mois du mondial. Hein. On a quelques réserves. C'est juste que, voilà. Un petit rayon de soleil qui est apparu après le mois de juin, hyper orageux. Dans un instant, Solal sera avec nous au 32-16. Reste avec nous sur RMC 20h27 et Génération After. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After RMC, merci d'être avec nous. 20h33, Jonathan Macardy à mes côtés, Simon Lutin également. Dans un instant, on repart de l'équipe de France pour nous appeler au 32-16. D'abord, des tours par le Stade Océane, messieurs, qui vit un grand moment de son histoire. Au Havre, donc, le Stade Océane, qui accueille la première nation au classement FIFA. Samba, merci Toto, en régie, notre réalisateur. Le Brésil est sur la pelouse du Stade Océane pour affronter le Ghana sous les yeux de Valentin Jamain, le petit frère. Salut Valentin.
Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ça vient de partir, 12 secondes de jeu entre Brésil et Ghana. Évidemment 0-0, match amical. Avant-dernier match pour ces deux nations, avant de débuter la Coupe du Monde dans un stade Océane du Havre qui a fait le plein, environ 25 000 personnes pour voir Neymar et ses
coéquipiers. Non, pour voir André Ayou.
Affronter le Ghana pour voir les frères Ayou, même Jonathan, et ça voilà. Va te rappeler de bons souvenirs puisque Jordan et André et sont sur la pelouse effectivement pour le Ghana, les immortels frères Ayou, évidemment passés par l'OM du côté du Brésil. Franchement, la composition elle est impressionnante, notamment en attaque. Je vous la fais rapidement: Alisson dans la cage, la charnière Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao est aligné latéral droit, il avait déjà joué à Porto à ce poste-là, le défenseur central du Real. Attention à ce ballon de Vinicius là qui est contré. Alex Telles latéral gauche, Casemiro, Paqueta au milieu de terrain, Neymar en soutien de Richarlison, à gauche Rafinha et à droite Vinicius. Voilà pour cette équipe
Valentin.
Brésil. Oui,
tu regarderas si
attention, Neymar dans la surface justement, il est un petit peu gêné, il a pas réussi à transmettre pour l'instant, mais les Brésiliens sont devant. Vas-y Jonathan.
Tu nous diras si Pedro entre en jeu, c'est un avant-centre qui joue dans le championnat local et que un petit peu tout le monde souhaite voir avec la sélection, il vient d'être appelé. Alors, c'est peut-être un petit peu short pour le mondial, mais il a toute la hype du pays derrière lui quoi.
Il joue où?
Ouais, effectivement, il est sur le banc et il a déjà une sélection, hein, si je ne m'abuse. Il avait déjà été appelé à une reprise, mais effectivement, c'est un garçon qui est attendu parce qu'on n'a pas vraiment de neuf, on va dire, attitré au Brésil. Un petit mot côté Ghana parce qu'on a des joueurs qu'on connaît en Ligue 1. Alexander Djikou est en défense centrale, le joueur de Strasbourg. Sous les manas de Rennes en attaque à droite. Évidemment, Jordan Ayou et André Ayou devant. Sachez que André Ayou maintenant joue au Qatar. Je ne sais pas
exactement.
Si. Vous avez vu ça, mais il est à Al Saad, et puis Thomas Partey d'Arsenal au milieu, Mohamed Kudus qui joue à l'Ajax également. Donc il y a quand même de très bons joueurs dans cette équipe du Ghana, et chacune de ces deux équipes se testent. Le sélectionneur du Ghana a dit que c'était un test pour le match face au Portugal lors de la Coupe du Monde, alors que le Brésil se prépare notamment à affronter le Cameroun en affrontant le Ghana. Ce sont des équipes qui ont les mêmes profils selon titre. Voilà, 0-0 après 3 minutes de jeu entre le Brésil et le Ghana.
Tout à l'heure Nico Valentin, pardon Nico, Valentin, c'est moi
Valentin.
Nico Jamain
qui jouait à Fluminense avant de partir pour un... Non, mais parce que ça me disait quelque chose.
Il était parti en Italie. Tu sais pourquoi, mais il a quel âge ce joueur?
Tu sais pourquoi je m'en sens
25 ans.
C'est plutôt grand attaquant, grand avant-centre. Et la Fiorentina l'avait piqué au Girondins de Bordeaux, qui était sur le coup à l'époque.
Voilà, il nous appartenait pas, on est d'accord.
Non, mais bon.
On était sur le coup.
On avait toutes les chances de le
faire. Voilà, évidemment. Les Bleus, Solal est avec nous, 32-16. Salut Solal.
Bonsoir à tous.
Salut. Très beau prénom, Solal. Magnifique.
Merci beaucoup.
Belle du Seigneur. On t'écoute Solal. Sur l'équipe de France, alors, est-ce que toi tu es inquiet ou pas tant que ça à 2 mois du mondial?
Moi, voilà, le match d'hier soir m'a pas spécialement rassuré. En fait, pour être honnête avec vous, le match d'hier soir, je m'en fiche un peu.
Bien sûr.
Mon diagnostic aurait pu être confirmé, il a pas spécialement été. Mais en fait, voilà, moi, mon idée, c'est que il y a des problèmes à tous les étages de cette équipe de France, que ce soit au niveau des joueurs où il y a des scandales, notamment l'affaire Pogba. Il y a un peu plus longtemps, l'affaire Mendy. J'ai l'impression que Deschamps n'est pas aussi soutenu qu'avant et qu'il est un peu fragilisé. La FFF, j'en parle même pas. Les politiques s'en mêlent. Pour moi, c'est un cocktail qui est explosif. L'équipe de France est à vif. Et il suffit de très peu pour que tout explose. Moi, je suis très pessimiste sur l'équipe de France à la Coupe du Monde.
Mais tu penses vraiment que ça a un impact sur les joueurs, vraiment,
sur
ce qu'ils font sur le terrain?
Je vais préciser la question de Simon, Solal. Tu penses pas qu'on connaît le fonctionnement de Deschamps? Il va prendre tout le monde en mode commando. C'est combien de temps qu'il part?
Pas grand chose, mon cher.
Il y a 2-3 semaines?
Même pas 10 jours.
Il y a 10 jours? Ok, bah, je pense que les 10 jours, il va essayer de les mettre en mode mission. Et puis c'est là que Deschamps réussit ses meilleurs coups de magie. C'est quand il arrive à avoir son groupe sous la main, à créer une bulle. Et je pense que les problèmes externes n'auront pas d'impact sur les performances sportives.
C'est justement mon idée, c'est que j'ai l'impression que Deschamps ne tient plus aussi bien son groupe qu'avant. Et que voilà,
ça, c'est autre chose.
Il suffit que Mbappé ait un conflit avec un autre joueur et qu'il y ait un match, un mauvais résultat, et là, ça va être une boule de neige négative. Et moi, pour être honnête avec vous, je pense même que les Bleus vont même pas passer les phases de groupe de la Coupe du Monde. Franchement, je suis très pessimiste.
Oh là, Solal, c'est dur de te suivre quand même. Hein.
Tu vois quoi? Un nul contre la Tunisie, une défaite contre l'Australie?
Ah ouais.
Franchement, je pense que ils vont peut-être avoir du mal, par exemple, à rentrer sur la compétition. Et là, en fait, tout va péter. Mais je pense qu'il y aura un Aïs Nabis, quoi.
C'est un tableau très très noir, Solal, que tu veux présenter.
T'es d'un naturel plutôt optimiste, j'ai l'impression, dans la vie, là, parce que.
T'es supporter de quel club? Ça peut nous en dire beaucoup.
Pour Lyon, moi.
Ah ben voilà, on comprend. Et Textor, il est primé. Textor, il a les sous ou pas?
Non, ça, on le sait, il n'a pas les sous-textes.
Voilà, non, mais je pense que c'est ça qui a dû un petit peu, tu vois, te rendre si noir, Solal.
C'est ça, je suis anxieux.
Parce qu'en gros, tout le monde va s'embrouiller, on va pas gagner un match au mondial, ça va être un nice nap bis, si j'ai bien l'impression. Bon, c'est un peu dur quand même, à part regarder dans une boule de cristal. Je vois pas comment.
Moi, Solal, je vais dans ton sens. Tu rentres dans la compète, c'est un peu dur contre l'Australie, on se rappelle, en 2018, mais voilà. Tu fais match nul. T'as pas la chatte à Dédé, jusque l'Australie manque un penalty et tu fais 0-0. Tu perds contre le Danemark au match suivant et tu te fous le feu contre des voisins tunisiens, ça peut être le scénario catastrophe, mais j'ai du mal à y croire, Solal.
Bon, Solal. Le Danemark, moi je considère que c'est quand même la deuxième équipe du groupe. Le Danemark, on peut totalement perdre. Donc, comme tu l'as dit, un match nul contre l'Australie, une défaite contre le Danemark, rien ne va. Franchement, mon impression, c'est qu'à force de mettre des problèmes sous le tapis pour les régler après la Coupe du Monde, je pense que tout va ressentir au pire moment.
Ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est presque trop tard.
Non, mais pour toi, c'est quoi? Faut virer le Gret, faut se débarrasser de joueurs qui sont impliqués dans quelque affaire que ce soit. Qu'est-ce que tu prends comme décision radicale pour sauver la Coupe du Monde, Solal?
Ouais, moi déjà, je pense que premièrement, on s'attaque à la FFF et à le Gret. C'est la première réforme.
Ça ne changera pas grand-chose.
C'est quand même pas à cause de Noël Le Gret qu'on va pas gagner la Coupe du Monde, Solal. Je n'arrive pas à comprendre le lien, en fait, le raisonnement.
Bah, le raisonnement, c'est que si les résultats ne suivent pas dès le début, il y aura des tensions dans le groupe, il y aura un élément que je ne connais pas encore, mais qui va déclencher.
Ah, c'est toi le marabout de Pogba, en fait. On a eu le marabout de Pogba, il y a le devin de Lyon. 36-15 Solal, voyance, etc.
Bon, Solal, en tout cas, c'est ton avis, il nous fait peur. Nous tremblons.
Non, moi j'ai du mal à te suivre, Solal.
Évidemment, encore une fois, je pense que si tu gagnes ton premier match, tout sera quasiment oublié. Ils seront dans leur bunker au Qatar. Ils essaieront d'avancer comme ils peuvent. Solal, merci d'avoir fait le
32-16. Merci à toi.
Excellente soirée à toi. Dans un instant, les gars, on revient. Amusons-nous quand même. C'est un petit jeu du vendredi soir. Il est 20h40, c'est la fin de la semaine. À dessiner votre 3-5-2, si jamais Deschamps part ce principe-là. Idéal pour le mondial de l'équipe de France. Vous pouvez jouer avec nous au 32-16 et on parlera bien sûr des déclarations.
Idéal.
De Kylian Mbappé.
Idéal, parce qu'on pense que Dédé va mettre.
Idéal. J'engage ton avis, mon cher Jonathan. Valentin Jamin, Brésil-Ghana, au Havre, s'il te plaît.
Toujours 0-0 après 8 minutes de jeu. Pour l'instant, les Brésiliens ont le ballon. Ils ont eu les deux plus grosses occasions avec Richarlison qui a récupéré un centre en retrait de la droite. Il l'a envoyé au-dessus. Et Paqueta, un centre de la gauche qu'il a envoyé juste à côté. Donc ça se précise sur le but du Ghana. 0-0 après 8 minutes de jeu.
Allez, à tout de suite, Valentin. Vous écoutez Génération After. 20h41 dans un instant. Kylian Mbappé également et sa déclaration. Étonnante, surprenante ou pas. Appelez-nous au 32-16 pour évoquer sa liberté retrouvée en équipe de France. Celle au scénario. Ne jouit pas au Paris Saint-Germain. A tout de suite, c'est RMC Génération After, 20h41.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After, RMC, 20h46 avec Simon Dutin, Jonathan Macardy en ensemble jusqu'à 22h. Dans la foulée à 22h jusqu'à minuit, Thibaut Gingrand avec Coach Courbis et Kevin Diaz. Nous parlons de l'équipe de France. D'abord les directs, Brésil-Ghana. Un but a été marqué, Valentin Jamin.
Oui, 14 minutes de jeu et l'ouverture du score logique de la part du Brésil, signé d'un Parisien. Non, ce n'est pas Neymar, mais c'est Marquinhos qui est venu couper un corner, venu de la droite vers la gauche. Et donc, voilà, la classique, on l'a déjà vu faire en Ligue 1. Cette fois, il le fait avec sa sélection. Et donc c'est fort logiquement que le Brésil est devant 1-0 après 14 minutes de jeu.
Ligue des Nations, le groupe de la mort, les gars, de la Ligue des Nations, c'est le groupe 3, Allemagne-Hongrie ce soir, ça vient de commencer. Et Italie-Angleterre avec Salim Bongali qui suit ce match pour nous, pour Génération After. Salut Salim.
Salut messieurs, bonsoir à tous. Et ça vient effectivement tout juste de commencer entre l'Italie et l'Angleterre dans ce match à San Siro, et groupe de la mort et match qui est... sur le papier compliqué pour l'Angleterre. Les Anglais qui n'ont pris que 2 points sur 4 rencontres. Et en cas de défaite aujourd'hui des Anglais, eh bien ceci serait relégué en Ligue B. Rendez-vous compte, les Anglais qui il y a un an jouaient la finale de l'Euro, les Anglais qui dans 2 mois voudront faire bonne figure lors de la Coupe du Monde au Qatar, et bien des Anglais qui pourraient être relégués en Ligue B pour essayer de ne pas être justement dans cette deuxième division. Et ces Anglais allient notamment en attaque Kane, Foden et Sterling. Côté italien, c'est surtout essayer de bien finir cette Ligue des Nations et surtout essayer de relancer une machine enrayée avec notamment la non-participation au prochain mondial. Beaucoup d'absents, faut-il le rappeler, Verratti, Pala, Pellegrini, Politano, Locatelli, Chiesa, Berardi, sans oublier Immobile qui n'est pas là, Tonali, Florenzi, Spinazzola qui sont blessés pour cette rencontre. Mais tout de même, Raspadori et Scamacca qui sont titulaires en attaque. On notera aussi les présences. Ah ben évidemment, l'attaquant de West Ham. On n'oubliera pas également Jorginho et Barella qui sont présents.
C'était l'Angleterre qu'on suit avec toi ce soir, mon cher Salim. Vous savez qui est leader dans ce groupe, les gars? Vous savez?
Non, le groupe 3. C'était inintéressant, la Ligue des Nations.
C'est la Hongrie.
La Hongrie qui est leader. 7 okay. points. 7 points.
Rend bien leur face.
Il est bon, celui-là. À tout à l'heure, Salim. 0-0 entre l'Allemagne et la Hongrie dans l'autre match du groupe. Donc, messieurs, tiens, rapidement, quand même, votre 3-5-2 idéal pour le mondial.
Facile.
Jouons, vas-y.
Maignan.
Ouais.
Une défense.
Ça y est.
Idéal. Idéal. Bah ouais, moi, je mets Mike Maignan. La défense, je l'ai dit, c'est Varane, Libero, avec Saliba à sa droite et Lucas à sa gauche. Latéraux, Kaloulou et l'autre frère, Hernandez. Donc, Kaloulou et Théo. Et donc, même si Kaloulou, je sais qu'il joue défenseur central au Milan AC, mais il a joué aussi latéral droit et ça t'apporte de la polyvalence, si jamais il y a un pépin. Au milieu de terrain, bah, Tchouaméni, Kamavinga.
Ça ah ouais,
être un petit peu new look. Tchouaméni, Kamavinga et devant, ben moi je prends le pari de sortir Griezmann et de mettre Nkunku avec Mbappé et Karim Benzema. Mais après c'est le 11 idéal, on n'a pas dit
c'est ton 11 à toi.
On sera
ouais. C'est le 11 Macardy. Le 11 du temps il ressemble à quoi?
Oh, je suis beaucoup plus académique moi, tu sais, Hugo Lloris, le meilleur gardien du monde dans les buts évidemment.
Homme
ne lançons pas ce débat là.
Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Jonathan pour les trois derrière. Moi j'aime bien Saliba axe droit, Varane libéro, Lucas axe gauche, Théo piston gauche. Je mettrais Coman, moi je l'avais bien aimé dans ce rôle là en piston droit presque. Qui peut tenir physiquement sur un tournoi. Tchouaméni, Kanté au milieu si Kanté est de retour. Et puis voilà, les trois de devant, hein, Griezmann, KBKM.
Ouais. KBKM. Je précise, non, Stéphane également qui nous livre le sien sur Direct Studio. Comme toi, il met Maignan dans le but. Koundé, Varane, Hernandez, sa défense oui. à 3. Piston gauche, Coman.
Ouais.
Non. Droite, Dembélé. Milieu très offensif. Milieu défensif, Tchouaméni, Camara. 2-9 et demi, Mbappé plus à gauche et Benzema plus dans l'axe. Giroud également, voilà. Bon, pourquoi pas. Ouais. Bon, c'est pour jouer les gars, hein, pour savoir un peu ce que.
Et toi, Nico,
ce que vous imaginez. Ça moi, je l'ai pas fait. Moi, je me mouille pas.
Ça choque personne que Kaloulou n'ait jamais été considéré pour la Coupe du Monde.
Tu as raison.
Je pense que Johan en parle assez.
Nous dit le plus grand bien chaque année.
À chaque fois que je le vois, je suis ébloui.
Bien sûr.
Je trouve ça curieux.
Parce qu'il y a un discours bien discutable au Milan. Ouais. Les gars, il a dit ça hier, Kylian Mbappé, après le match. Je joue différemment, on me demande autre chose ici, entre parenthèses, en équipe de France, par rapport à mon club, entre parenthèses, le PSG. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive qui occupe les défenses et moi, je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent. Est-ce qu'il n'est pas juste en train de dire, Kylian Mbappé, qu'on lui avait promis qu'un 9 arriverait au PSG? Profil type Lewandowski, qui n'est pas arrivé, alors que ça lui aurait permis d'être beaucoup plus libre sur le terrain à Paris, comme il est en équipe de France.
Il y a deux lectures.
Est-ce qu'il ne va pas attaquer à l'état-major du PSG?
Il y a deux lectures. Il y a la lecture « Je regrette que le Paris Saint-Germain n'ait pas recruté le numéro 9 ». Ou l'autre lecture, ça peut être aussi « J'ai besoin d'avoir plus de liberté au Paris Saint-Germain ».
Pour cela, il faut donc un pivot pour le libérer de ce rôle.
Jouer, tu peux jouer
lui-même. Alors, attendez, je suis pas d'accord, il n'est pas pivot.
Il a passé des mois à nous dire qu'il voulait jouer avant-centre et qu'il voulait jouer dans
après.
L'axe.
Il venir après, Simon.
De quoi on parle là? Excusez-moi, messieurs.
Il peut jouer avant-centre sans jouer pivot.
Excuse-moi, c'est.
À deux.
Il peut jouer
et tourner autour d'un grand type Giroud ou
Clément Lewandowski. Il joue à deux devant et qu'on
sente. Non, mais Simon, le vrai Ronaldo, quand il jouait seul en pointe, il jouait pas en pivot. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé de jouer pivot pour jouer numéro 9.
Tu peux lui rétorquer qu'il peut démarrer le match à gauche dans un 4-3-3 et être quand même le buteur de l'équipe.
Baptiste Touta, c'était pas un pivot. Pourtant, il joue numéro 9. Donc, ceci étant dit, moi, en fait, ce qui m'a beaucoup fait rire dans cette déclaration, c'est que, ok, il fait un match qui est correct hier. C'est pas le match étincelant que lui a vu et que beaucoup ont vu. Je trouve qu'à la création, il y a eu quand même beaucoup de déchets. Moi, qu'est-ce qui m'énerve avec cette talonnade? Il y en a 3 sur 4 qui marchent jamais. Faut qu'il arrête. Et je pense que Mbappé, en fait, il est en pleine crise identitaire de qui il est footballistiquement parlant. Alors, tu l'as dit, Simon, à un moment, sa revendication, c'était de dire, je veux jouer numéro 9 parce que mon idole, c'est le vrai Ronaldo, etc. Là, maintenant, tu le mets sur un côté, il est pas content. Donc, en gros, lui, ce qu'il veut, un petit peu comme tous les joueurs, c'est d'être à la baguette, d'être le chef d'orchestre. Mais le problème, c'est qu'à mon sens, il n'en a pas les qualités. Au Paris Saint-Germain, s'il n'a pas les clés du camion, comme il l'a eu hier soir contre l'Autriche, c'est simplement parce qu'il y a deux mecs, personne quand même, excusez-moi, Messi et Neymar, qui sont bien meilleurs que lui pour créer le jeu. Et là, à mon avis, et ça, lui, ça m'étonne qu'il ne l'ait pas intégré dans son raisonnement, le fait d'être playmaker, pardon Nico, mais le fait de jouer, d'être créateur, d'avoir les clés du camion contre l'Autriche, c'est simplement Karim Benzema n'était pas là. Donc, c'est juste circonstanciel, conjoncturel, ce que vous voulez. Mais pour moi, si vraiment Mbappé, tu veux se mettre au service du collectif et à la fois briller individuellement, il faut qu'il arrête de se prendre pour ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un créateur. C'est un joueur qui doit jouer sur ses qualités qui sont hors normes, qui sont la vitesse, la profondeur et le fait de casser des reins aux défenseurs. C'est tout. Faut arrêter et je pense que c'est il y a rien d'infamant.
Tu parles de Dibril Cissé,
pas du tout.
Pour lui, c'est quoi. Ça, c'est ce que j'allais dire parce que sans être aussi péremptoire que toi, effectivement, tu sens que dans son projet de s'inscrire dans l'histoire du foot, de laisser sa marque, à un moment donné, il s'est dit j'ai pas envie qu'on me reconnaisse juste parce que je vais plus vite que les autres, que je prends la profondeur et que je sais finir les actions. Et effectivement, tu sens qu'il a eu envie d'ajouter une panoplie, tu vois, des cordes à son arc et effectivement de reculer un peu, d'être à la création. À la construction, effectivement, d'abuser parfois un peu de la remise en une touche, de tenter des passes entre les défenseurs qui sont un petit peu trop compliqués. Là où je suis pas aussi péremptoire que toi, c'est que je pense qu'il en a les qualités.
Les qualités techniques, t'es sûr?
Ah, je trouve quand même que hier, malgré tout, tu sens qu'effectivement, il a envie de prendre ses responsabilités. Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, à Paris, t'as Neymar et Messi, donc tu vas pas,
Simon, non plus laisser porter le ballon. Dans ton raisonnement, je te donne un élément, c'est que c'était contre l'Autriche et en Ligue des champions, quand il était seul, qu'il n'y avait pas Neymar, parce que Neymar était blessé ou que Messi n'était pas encore au club, à chaque fois qu'il a eu les responsabilités de créer le jeu, il a échoué en Champions avec le PSG. Ça, faut bien en être conscient. Il a échoué dans deux positions au PSG, en jouant numéro 9 et quand on lui a demandé de créer du jeu. Donc, on a quand même eu des expériences de très haut niveau qui sont symboliques pour Mbappé. Et je pense juste une chose, c'est juste peut-être tiré par les cheveux, mais je pense qu'on a beaucoup parlé récemment des comparaisons entre Mbappé et Haaland, à savoir qui sera le joueur le plus dominant de son époque. Mmh. Haaland, c'est un pur numéro 9.
Qu'on a fait
Et je pense que Mbappé, dans sa tête, il se dit, moi, j'ai envie d'être plus que le pur numéro 9 qui est Erling Haaland. Et je pense que ça joue aussi dans sa tête.
Il a envie d'être un joueur à part, effectivement, inclassable, effectivement, de pouvoir marquer, de dribbler, de faire la passe cachée.
Mais c'est pas lui, hein. C'est pas lui, hein.
Effectivement, t'as envie de lui dire, excuse-moi, s'il y avait l'équivalent de ce que t'as à Paris en équipe de France, mettons, je vais exagérer, mais effectivement, s'il y avait Zidane et Platini en équipe de France, bon, il porterait un peu moins le ballon et il serait un peu moins,
plus proche du but. Juste, attends, le retour de Karim Benzema, ça va rabattre les cartes. C'est Karim Benzema qui va avoir les clés du camion. En termes de création, Benzema a en lui, tu vois, quand il commence à Lyon, on sent que c'est pas vraiment juste un numéro 9, qu'il a en lui d'être quasiment meneur de jeu.
Très réducteur par rapport aux qualités de
Mbappé.
Mais
c'est pas réducteur, Nico, pourquoi?
Mais c'est un garçon qui sait combiner, qui sait jouer à une touche de balle.
Mais bien sûr. Mais il y a une différence entre savoir combiner quand tu joues à deux devant et être le dépositaire du jeu de ton équipe. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un très bon passeur, Mbappé. Et je pense qu'il sera encore meilleur parce que moi, à mon sens, face au but, si on parle de qualité face au but, de finition, il est au niveau d'Erling Haaland. Mais je pense qu'il a besoin d'avoir un passeur derrière lui et que c'est pas à lui de faire ses passes.
On fait une pause, on va prolonger le débat, c'était pas prévu, puisqu'on a des appels au 32-16 sur ce sujet. Mbappé, qui aimerait avoir un Giroud au PSG. Moi, c'est comme ça que je le comprends, les gars, faut être très honnête. D'ailleurs,
je suis pas sûr qu'il y a un message. C'est là que je suis pas d'accord avec vous.
Je vais vous le donner, le message. Il est clair comme de l'eau de roche.
Allez, restez avec nous dans un instant. On prolonge le débat sur Mbappé. Vous écoutez Génération After avec Jonathan Macardy, Simon Dutin. Très rapidement, mon cher Valentin, Brésil-Ghana, s'il te plaît.
24 minutes de jeu, 1-0 pour le Brésil grâce au but de Marquinhos sur corner. Il n'y a pas de match. Le Brésil pourrait mener 3 ou 4-0. C'est un but pour le moment seulement. 1-0 pour le Brésil, 24e.
Et Ligue des Nations, groupe 3, Italie-Angleterre, Salim Bungali.
10 minutes, toujours 0-0 entre l'Italie et l'Angleterre. Et première grosse occasion pour les hommes de Roberto Mancini. Scamacca de la tête au deuxième poteau qui a touché la barre. Ballon dégagé par Nick Pope en corner. Toujours 0-0 entre les deux.
Je vous annonce à Scamacca marque ce soir. On va entendre hurler à travers les étages d'RMC. 20h57, Génération After revient dans quelques secondes, là tout de suite.
RMC.
On se plaint souvent d'avoir des robinets d'eau tiède en conférence de presse. Là, t'as un mec qui ouvre sa bouche, alors peut-être à bon escient ou à mal escient. Au moins, il est pas tiède.
Le fait que ce soit simplement le quatrième club, alors certes, non, c'est pas inédit, mais ça remonte au calanque hein, quand même.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Merci d'écouter RMC en ce vendredi soir. Il est 21h, Génération After avec Simon Dutin et Jonathan Macardy. On prolonge le débat sur Mbappé après ses déclarations hier soir, après la victoire face à l'Autriche. D'abord les directs, encore un but pour le Brésil face au Ghana, Valentin Jamin.
Et il est très beau ce but, 28 minutes de jeu, ça fait 2-0 pour les Brésiliens. Le but de Richarlison, l'attaquant de Tottenham, bien servi à l'entrée de la surface. Une passe verticale, et lui, enfin verticale en tout cas, une passe qui casse des lignes. Et lui, en pivot, en une touche de balle, qui vient frapper ce ballon dans le petit filet de Wolacott, le gardien du Ghana. Ça fait 2-0 pour le Brésil et c'est logique. On approche de la demi-heure de jeu. Ce match va être long pour les Ghanais. Hein. 2-0.
Et également la Ligue des Nations, Italie-Angleterre, Salim Bongali.
Le quart d'heure, toujours 0-0 entre l'Italie et l'Angleterre. J'évoquais il y a quelques instants la belle opportunité pour Gianluca Scamacca. Et on va être très honnête, depuis un quart d'heure, c'est l'Italie qui domine et archi-domine même l'Angleterre, avec notamment Harry Maguire en défense. N'y arrive pas du tout. Harry Maguire qui tout de même a eu une pseudo-occasion sur corner, mais une balle qui a été captée par le gardien. J'aurais pu la capté assez aisément aussi. 0-0 toujours entre les deux.
0-0
le
toujours
également. Le maillot des Anglais est vraiment moche cette année.
Il est, t'as raison. Très vintage, fin des 90, je dirais, début 90.
Ben oui, ouais. Parce que d'ailleurs, le maillot extérieur, le maillot away, le maillot rouge, s'inspire vraiment du maillot rouge des années 90 de l'équipe d'Angleterre, alors que c'était pas du tout le même équipementier. Oui, parfois on fait du neuf avec du vieux, on va le dire comme ça.
Alors messieurs, tiens, une information que je vais vous donner tout de suite concernant l'Olympique de Marseille et sa campagne en Ligue des Champions en phase de groupe. Le match contre le Sporting Lisbonne, prochain match de Marseille en Ligue des Champions au Vélodrome, se jouera à huis clos. Décision de l'UEFA. Le virage nord sera fermé aussi pour le match contre Tottenham.
Moi j'ai envie. Vas-y.
Je rappelle, c'est entre autres pour jet de fumigène, utilisation de laser, perturbation de la foule, blocage des passages publics, alors, voilà tout ça.
Moi je trouve.
C'est très lourd comme sanction.
C'est un brin injuste. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais sur place et j'avais une vue privilégiée sur le parquage des Allemands et sur ce qui s'est passé avec le virage nord. Alors c'est vrai qu'il y a eu des choses pas très jolies qui se sont passées. Il y a eu des jets de fumigène. Du virage nord vers le parquage des Allemands, mais il faut quand même dire une chose, c'est que c'est, alors je sais que ça fait un peu cours d'école,
c'est les Allemands qui ont commencé,
mais c'est vraiment les Allemands qui ont commencé avec ce qu'on appelle des pétards avec lanceur, c'est-à-dire que t'as des pétards où tu peux tirer, t'appuies dessus, et en fait c'est il y a un propulseur qui fait que le pétard prend une vitesse extraordinaire et ça c'est facile de tomber là où tu le souhaites. Il y a eu des bombes, des échanges de bombes agricoles aussi, ce qui est quand même assez curieux. J'ai vu des bombes agricoles partir du parquage des Allemands. Donc certes les Marseillais ont répondu, mais il y a eu un comportement très agressif de la part des Allemands et je pense que la moindre des choses, j'accepte le huis clos en tant que supporter de l'OM. Fermeture du virage nord aussi, mais j'espère que le club de Francfort sera lui aussi très fortement sanctionné pour le manque d'encadrement et le manque de responsabilité quant aux supporters qui sont venus au Vélodrome, qui se sont comportés très salement.
Donc voilà, huis clos pour Marseille Sporting en Ligue des Champions et virage nord fermé pour Marseille Tottenham, dernier match de la phase de poule de Ligue des Champions. Ce sera pas forcément décisif, mais important pour l'OM qui va jouer sans la majorité de ses supporters. Eh oui, ça va compter énormément.
Ça va compter énormément.
0 points de match, huis clos pour le match de la relance contre le Sporting, et puis un huis clos partiel pour la sixième et ultime journée de la phase de poule.
Mais on prend pas 4 points sur les deux prochains matchs, de manière, c'est fini.
Madi est avec nous au 32-16. Salut Madi.
Salut Madi.
Salut.
Salut.
Bienvenue dans Génération After. Tu nous écoutais débattre là sur Kylian Mbappé après sa déclaration d'hier. Je résume grossièrement, il s'estime plus libre en équipe de France grâce à Giroud en pivot qu'au Paris Saint-Germain. Qu'en penses-tu?
Écoutez, moi en fait j'appelle surtout pour une chose par rapport à Mbappé, c'est que j'ai écouté encore une fois attentivement Jonathan. Et j'avais déjà appelé la dernière fois concernant Paul Pogba, parce qu'il avait quand même osé dire que Paul Pogba à l'heure actuelle était un joueur moyen et que voilà, enfin bref, plein de choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Il avait réussi à m'énerver une fois et là ça fait donc deux fois qu'il réussit à m'énerver. Je suis désolé.
T'es soupolé, mon garçon.
Vas-y, dis-moi.
Non, soupolé, tu sais que soupolé veut dire qu'on change comme ça d'humeur.
Oui.
Pas du tout.
Oui,
là, en l'occurrence, c'est pas ça dont il s'agit. Te concernant, c'est assez constant. Je t'assure, à chaque fois que je t'écoute, j'aime bien t'écouter, mais je m'énerve assez souvent. Bon, trêve de plaisanterie.
Dis-moi, je suis prêt. Dis-moi tout.
Juste un truc. Tu dis, comme beaucoup de gens, Mbappé est un joueur de profondeur et rapide.
Alors, tu vois, moi, ça me rend dingue d'entendre des trucs comme ça. Mbappé, depuis à peu près l'âge de 13 ou 14 ans, je l'ai vu jouer. Son entraîneur, d'ailleurs, à l'époque, c'était Bruno Irles, qui disait qu'il n'avait pas d'avenir dans le football professionnel. Et il jouait à Monaco à l'époque, d'accord ? Et il était au-dessus du lot techniquement, je dis bien au-dessus du lot techniquement, à Monaco. Hein. J'ai pas dit à Troyes ou à Sedan. À Monaco, il était au-dessus du lot. J'ajoute que Mbappé, en fait, le problème, quand on le regarde, c'est que déjà, il faut se dire que pour faire ce qu'il arrive à faire, déjà, à l'allure où il le fait, il faut être surdoué techniquement. Faut pas juste être bon techniquement.
Ah, on n'a pas dit qu'il avait les pieds carrés, hein. Attention, hein.
Je termine et tu me répondras. Ensuite, un troisième paramètre concernant Kylian Mbappé. Je pense que vous confondez, pour beaucoup, la technique et la gestuelle. La gestuelle est une chose, la technique en est une autre. Et parfois, souvent, un joueur qui a une belle gestuelle, je le concède, a une bonne technique. Mais lui, il est très efficace. Et c'est vrai que c'est pas Zinedine Zidane, c'est pas Neymar, avec qui j'aime pas la comparaison, mais il sait faire énormément de choses.
Mais bien sûr.
Et la quatrième chose, je pense qu'avec ce garçon, on a plein de représentations. C'est un attaquant qui vient des quartiers, etc., qui va vite. Et tout à l'heure, j'ai oublié, je suis désolé, le prénom de l'animateur, j'ai un petit trou.
Nicolas.
Nicolas a dit, attention, c'est pas Djibril Cissé. Eh ben, ouais, carrément, quoi. Je pense qu'on y va à chaque fois avec des représentations. C'est pas Djibril Cissé.
Ah, tu l'as pris
c'est
comme
juste
ça?
Un joueur que bah, non, mais je le prends tout le temps comme ça, en l'occurrence.
Bah, alors attends. Que cette fois, c'est intéressant ce que tu dis parce que je suis à 100% d'accord avec toi sur la différence entre gestuelle et qualité technique. C'est pas pour rien que mon joueur favori du moment, c'est Thomas Müller. Je pense que c'est le joueur le plus dégueulasse à avoir joué en termes de gestuelle. Mais donc, pour ça, je te rejoins entièrement. Après, attention, quand j'ai dit, c'est un joueur de profondeur et rapide. Et je pense que j'aurais peut-être dû mieux expliquer ce que je voulais dire par rapide. Pour moi, ça veut pas dire qu'il a les pieds carrés. C'est juste que ça peut être, tu vois, dans la surface adverse, donc pas en profondeur, mais dans un jeu qui est fermé. C'est juste son démarrage. Il est capable, sur un demi-mètre, de mettre trois tours de rein à n'importe quel défenseur. C'est une qualité qui, pour moi, est importante. Et évidemment, elle s'accompagne d'une qualité technique qui doit être, qui va de pair avec ça. C'est-à-dire la conduite de balle, le fait d'être capable de contrôler le ballon et de se l'amener de manière très rapide dans la direction auquel il veut aller. Et pour ça, il est forcément technique.
Attends, vas-y.
Et ce que je voulais dire par là, Maddy, c'était que pour moi, s'il joue sur ses qualités, qui sont sa vitesse d'exécution, et donc je te rejoins, il est technique. Il a une vitesse d'exécution qui est hors du commun, qui sont sa vitesse d'exécution, son démarrage sur les premiers mètres, il est à mon sens plus utile que s'il veut jouer en créateur. C'était juste ça, à mon avis. Je me suis peut-être mal fait comprendre, mais ça n'est pas plus loin que ça. Et je m'a dit, j'ai jamais dit qu'il avait les pieds carrés. Abuse pas.
Alors, du coup, je vais répondre. Non, j'ai jamais dit que tu avais dit ça, Jonathan, mais je vais répondre. Alors, je vais pas te répondre à toi, je vais répondre à tout le monde, parce que vous savez qu'il y a plein de gens qui pensent que d'abord sa qualité première, c'est la vitesse.
Mais c'est pas vrai.
Je dis juste une chose. Si vous mettez Neymar, si d'un seul coup vous faites courir Neymar à cette vitesse, vous lui mettez un moteur aux fesses, vous le faites courir à cette vitesse, je ne suis pas sûr que Neymar conserve la technique que Mbappé conserve à pleine vitesse. C'est ça aussi qui fait la différence, vous voyez. Donc, du coup, j'appelle pour pousser un coup de gueule. Alors pas forcément, j'étais un peu chambré, hein, Jonathan, c'est pas
forcément. Il n'y a pas de souci.
Entre toi,
t'es supporter du PSG, c'est pour ça.
Non, même pas.
Cette idée reçue que Mbappé n'est pas un joueur ultra technique. Je suis désolé, c'est un joueur techniquement ultra doué.
Voilà. Bien sûr.
Mais ton message est passé, il est clair. Et je pense que moi je t'en
veux. Il a eu raison de le faire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de détracteurs entre guillemets de Mbappé qui limite t'en parles comme d'un tout droit qui a un moteur aux fesses.
Mais non, c'est ce que je te disais.
Mais c'est d'ailleurs pas ça qui a voulu faire évoluer son jeu et il a remis sa panoplie parce que lui sait que dans l'imaginaire c'est réducteur, un attaquant qui court vite.
De là à devenir Iniesta, non, c'est il y a quand même un pas qu'on franchira pas. Et je pense que Mbappé sur ses qualités, il est juste fabuleux, phénoménal, ce que tu veux. Mais il a besoin d'avoir un créateur derrière lui pour être encore plus fort. Et juste pour en revenir, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais avant la pause, on se disait, mais quel message il a voulu faire passer? Moi, je pense qu'il y a un message qui est clair, c'est vous m'aviez dit que vous vendriez Neymar, vous le vendez pas, ça me bloque. Je pense que c'est surtout ça le message.
Moi, je trouve que ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Luis Campos la semaine dernière dans Rotterdam.
Bien sûr.
Quand il a constaté, reconnu qu'il y avait un petit problème au PSG, offensivement, qu'il y a deux joueurs au même profil, qui voulaient jouer au même endroit sur le terrain que sont Mbappé et Neymar. C'est lui-même qui l'a dit. Je pense que ce que veut dire Mbappé, c'est qu'il nous manque un profil différent, comme celui de Giroud au sein de l'attaque du Paris Saint-Germain.
Mais attention, les gars, en bleu.
Et Kitike peut le faire, mais il n'est pas pris, ce jeune homme.
En bleu, il va y avoir le même problème. C'est-à-dire que moi, je le dis depuis que l'annonce du retour de Benzema en sélection, et je pense qu'on l'a vu, Benzema, Griezmann, Mbappé n'ont pas les mêmes profils, mais ils occupent les mêmes zones préférentielles sur le terrain. Et ça, c'est un problème.
Alors, il y a deux choses. C'est pour finir, Mbappé nous dit je joue en pivot à Paris. Moi, j'ai pas l'impression qu'il joue énormément en pivot et que le jeu de toute façon de possession parisien se beaucoup.
Je pense que c'est la manière dont on lui demande de se positionner entre les deux centraux.
Voilà.
Il prend pas les ballons de la tête, etc. Comme Mamadou Samassa, mais c'est plus son positionnement.
Voilà.
Je suis d'accord. Allez. Il joue pas nécessairement en pivot.
Et pour terminer, là, Jonathan, je trouve que hier le match de Mbappé, il y a quand même à peu près tout dans ce qu'il nous a proposé, et je trouve que c'est pas un bon exemple quand même pour illustrer ta théorie sur le rôle qu'il doit occuper et
contre
et celui auquel il doit se cantonner.
Dis-moi contre qui tu as joué, je te dirai qui tu es. C'était l'Autriche. Et non, en Ligue des Champions,
je l'attends. C'est pas son premier bon match. Il a fait des matchs contre des équipes extraordinaires.
Mais pas forcément dans ce registre-là.
Il a mis la misère à Manchester City, quoi, tout seul. Le type,
mais pas dans ce registre-là. Je suis d'accord.
Allez les gars. C'est vrai qu'à l'époque c'était sur la vitesse,
Ah oui.
Mathieu, bonne soirée à toi. Bravo pour ton intervention.
Oui, très bien.
On échange avec Jonathan Macardy. Vous êtes assez courtois tous les deux, bien qu'on désaccord.
Bien sûr.
J'aime bien.
Et tu rappelles quand tu veux poulet.
Simon Dutin, Jonathan Macardy, Génération After, les directs rapidement. On commence par Brésil-Ghana. Valentin Jamin, coup franc pour le Brésil.
39 minutes de jeu, oui. 2-0 pour les Brésiliens. Marquinhos et Richarlison, les buteurs. Et Neymar va tirer un coup franc qu'il va pouvoir mettre dans la surface de réparation. Pas une grosse ambiance, mais une ola qui vient de partir. Voilà, c'est la fête au Havre ce soir. 39 minutes de jeu et 2-0 pour le Brésil.
Je l'ai vu des Philippe, je crois, le maire du Havre qui est là.
C'est fort probable. Je l'ai pas vu, mais c'est fort probable.
Je l'ai vu, barbe intégralement blanche maintenant. Sourcils blancs intégralement également. Voilà.
Mutation effectuée.
Mutation en cours en tout cas.
Il est prêt.
Italie-Angleterre, Salim.
Il n'y a pas d'Edouard Philippe à San Siro a priori. 26 minutes toujours 0-0. Oui, c'est ça. 0-0 entre Italien et Anglais dans une ambiance.
Et le troisième sur ce coup franc tiré par Neymar et coupé par Richarlison. Et bien voilà, 3-0 après 40 minutes de jeu. Le Brésil déroule et Richarlison signe un doublé sur la pelouse du Havre. 3-0 pour le Brésil face au Ghana, 40e.
Italie-Angleterre, Salim.
Et donc toujours 0-0 après 26 minutes dans une ambiance très feutrée à San Siro. Le 3-4-3 anglais est dominé par le 3-5-2 italien.
Et la Hongrie mène 1-0 les gars en Allemagne. Voilà, un but de Zalaï. La Hongrie qui a 10 points dans cette Ligue des Nations après 5 journées pour l'instant. Après 30 minutes de jeu, la Hongrie qui ne sera pas au mondial d'ailleurs. Hein. C'est dire. Allez, on revient dans un instant, Génération After, 21h13, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After, merci d'être avec nous tous les soirs, hein, le lundi au vendredi de 20h à 22h sur RMC. Jonathan Macardy, Simon Lutin à mes côtés, très rapidement les directs, Brésil-Ghana, Valentin Jamin.
43 minutes de jeu, ça fait donc 3-0 pour le Brésil, but de Marquinhos, doublé de Richarlison et doublé de passe décisive pour Neymar sur les deux buts du joueur de Tottenham. La balade brésilienne se poursuit, 43 minutes de jeu, 3-0 pour le Brésil.
Et Italie-Angleterre, Ligue des Nations, Salim Bongali.
29 minutes toujours 0-0, Valentin a des buts. Si Valentin, tu veux me donner ne serait-ce que des occasions, je prends.
Et je pense qu'il y en aura.
Je prends pour le coup parce que des occasions, il n'y en a pas au final, à part cette première tête de Scamacca. Sinon, on s'endort au milieu de terrain, surtout toujours 0-0 entre les deux équipes.
0-0 Italie-Angleterre, toujours 1-0 pour la Hongrie sur la pelouse de l'Allemagne après 30 minutes de jeu. Messieurs, tiens, information, je vous rappelle une des informations de la soirée. Marseille jouera son troisième match de la phase de poule de Ligue des Champions au Vélodrome à huis clos. Décision de l'UEFA ce soir et virage nord fermé pour le dernier match, la sixième journée, et pour la réception de Tottenham en Ligue des Champions. Voilà.
Il y aura eu juste et un seul match de Ligue des Champions à Marseille avec le Vélodrome plein.
C'est terrible.
C'est dramatique.
Alors qu'on n'avait pas eu pour la dernière campagne à cause du confinement.
Du Covid, ouais.
Du Covid. Nice également jouera à huis clos. En tout cas, interdiction de déplacement pour ses supporters pour la prochaine journée de Ligue Europa Conférence sur les terrains de Slovako le 6 octobre et un huis clos total à l'Alliance Riviera pour la réception de Slovako le 13 octobre. Tout va bien. Début de campagne européenne, magnifique pour les clubs français.
Voilà. Pas un petit classement UEFA du comportement des supporters.
On est pas mal. Bon, on n'est pas responsable de tout, attention Simon, ce que tu dis. D'accord?
Ah ben, Cologne, bien, Nice. J'ai eu l'occasion de dire que la sanction contre l'OM, je l'ai trouvé très, très dure, hein, quand même.
Alors, messieurs, Lyon, à présent, on vous attend, supporters de l'OL, le 32-16. Pression confirmée sur Peter Bosz, 6e de Ligue 1. 3 défaites consécutives, pauvreté dans le jeu, pas d'évolution ou peu. Selon nos informations donc, que nous maintenons, réunion la direction avec le staff de l'OL avant le match perdu face au Paris Saint-Germain. Ultimatum fixé, glaner 17 points d'ici la trêve, 17 points sur 24, il reste 8 matchs avant la trêve hivernale. Sinon, ce sera merci au revoir pour Peter Boss. Cela n'a pas été dit comme ça, bien sûr, mais c'est le sens du message. Aujourd'hui démenti de l'Olympique Lyonnais dans un communiqué, aucun ultimatum n'a été prononcé à l'encontre de Peter Boss. L'entraîneur lyonnais et son staff ont connaissance d'un premier temps de passage fixé. Oui. C'est un peu ce qu'on dit finalement. À la trêve, mais le club tient à rappeler qu'il a une totale confiance en Peter Boss. Dans le genre démenti, on a vu plus convaincant. Pas d'ultimatum, mais en tout cas, il y a un temps de passage.
Est-ce qu'ils vont le virer avant ?
Question de sémantique, tout ça.
Non, ils vont le virer avant.
À moins que.
À moins que, regarde, 17 points jusqu'à la trêve.
Tu veux le calendrier ou pas ?
C'est justement ça le problème. C'est qu'ils vont, ils vont à Lens. Ils vont à Rennes.
Ils ont 4 déplacements. Lens, Rennes, Montpellier, Marseille.
Eh ouais.
Il y a réception notamment le Toulouse, Lille et Nice.
Mais c'est le calendrier est très compliqué. C'est surtout quand tu vois la qualité de jeu de l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison. Écoute, je pense que depuis que Peter Boss est arrivé, on lui a accordé dans cette émission beaucoup de crédit. Parce que il est vrai que sur sa première partie d'expérience, il n'avait pas les joueurs dont il avait besoin pour mettre en place son 4-3-3, etc. Il n'y avait pas de joueurs de côté. Quel intérêt de faire venir Peter Boss si tu ne prends pas d'attaquant de couloir, etc., etc. Là, le matériel, il l'a. Et il en fait n'importe quoi. Force est de constater qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre lui et son vestiaire, entre même lui et sa direction. On voit les déclarations un petit peu contradictoires de Jean-Michel Aulas et de Vincent Ponceau à son sujet. On sent que lui se sent sur la sellette, n'est pas en confiance, marche sur des œufs. Moi, je pense que pour le bien de l'Olympique Lyonnais, il faut dès maintenant arrêter l'hémorragie et se séparer de Peter Boss. Il a eu un nombre de chances incalculables depuis qu'il est à l'OL. Nous-mêmes avons été d'une clémence totalement dingue avec lui. Parce qu'on se disait, c'est un entraîneur qui arrive avec des idées de jeu, il n'a pas le matériel.
D'accord,
il faut,
avec Genesio, en fait.
Là, il faut arrêter.
D'accord, avec Genesio.
Mais c'est Genesio à sa place.
Il aurait démonté.
Pas démonté. Il se serait fait virer depuis longtemps. Il se serait fait virer depuis bien longtemps. Donc, je pense qu'il faut arrêter les frais. Ça n'a pas marché. Il faut regarder les choses en face. Moi, je pense que ça aurait déjà dû être fait avant la trêve internationale. Alors, je ne sais pas si les problèmes financiers de Textor font que t'hésites un petit peu à virer ton entraîneur parce que ça te coûte des sous. Et je rappelle que l'OL est coté en bourse, donc tu peux pas faire n'importe quoi avec l'argent du club. Mais pour le bien de l'OL, il faut et pour le bien de Peter Boss qui a l'air d'être dans un état psychologique lamentable, il faut arrêter les frais.
Ça ne marche pas,
c'est comme ça.
Peter Boss peut-il tenir les temps de passage imposés par sa direction ? Appelez-nous, supporters lyonnais au 32-16. Simon.
J'ai toujours un peu de mal, moi, avec ces espèces d'objectifs, là, comme si on était dans une boîte, là, tu sais, qui compte le pognon que tu peux rapporter. C'est du foot, c'est un petit peu,
aller. Non, mais quand t'es Lyon, tu vas des quotas rentrer comptablement.
Non, mais là où je rejoins Jonathan, c'est qu'effectivement, soit tu le vires maintenant, soit effectivement tu le virais à l'intersaison, parce que effectivement, bon, ça a pas marché la saison dernière, il se qualifie pas pour une Coupe d'Europe, alors qu'il y avait quand même l'effectif pour le faire. Il réussit à transformer Oussem Aouar, qui était un des milieux de terrain les plus convoités en Europe, en un joueur lambda.
Non, Oussem Aouar, c'est devenu un joueur lambda tout seul.
Bon, alors, mais peut-être
par
qu'il
son
y a,
comportement,
peut-être
qu'il y a une par son attitude, par la gestion de son contrat.
Écoute, en tout cas, il fait pas la saison qu'on attendait de lui. C'est très, encore une fois, nébuleux. Pourquoi l'a-t-on gardé cet été? Est-ce qu'on n'a pas trouvé mieux?
Est-ce qu'il n'y a pas d'offre?
Ça coûtait trop cher? Est-ce que.
Il n'y avait pas d'offre, Simon.
Tu décides, selon leurs propres termes, de redonner l'ADN Olympique Lyonnais à ce club et tu gardes un mec avec qui la greffe n'a pas prise. Donc je sais pas, il y a effectivement ce timing là du rachat, de la reprise. Peut-être que Jean-Michel Aulas, s'il a d'autres chats à fouetter, il s'occupe un petit peu de son futur job. Je sais pas, mais en tout cas effectivement moi je suis contre ces espèces d'objectifs. Vous venez de le rappeler, le calendrier c'est quasiment une blague quoi. Effectivement, ils ont quasiment.
Après,
ils ont
je pense que
depuis des
le vrai critère.
Lyon n'est pas capable, selon
non,
vous.
Non, c'est trop compliqué.
Et en même temps, il y a une autre lecture.
5 victoires de nul sur les 8 matchs.
Ouais, mais il faudrait un miracle parce que moi, en fait, c'est pas le bilan comptable. Et je te rejoins, Simon, on s'en fout, en fait, du nombre de points.
C'est
le plan de jeu. C'est ce qu'on voit sur le terrain. Et pour l'instant, c'est mauvais. C'est juste mauvais quand tu vois l'OL jouer. C'est indigne d'un club qui a ces joueurs-là. Alors, je veux bien qu'on sorte le. Et je rejoins les supporters lyonnais quand ils disent à chaque fois on perd nos meilleurs joueurs, on les remplace pas, c'est-à-dire que tu perds Memphis, il n'est pas remplacé, tu perds Paqueta, il n'est pas remplacé par un autre joueur de qualité similaire. C'est vrai que c'est difficile, mais quand tu vois la qualité de ton effectif, tu dois être quand même capable de faire beaucoup mieux que les bouillies que tu proposes face à Monaco ou comme face à Lorient. C'est pas possible, t'es l'Olympique Lyonnais quand même.
T'as beau perdre Paqueta qui avait atteint un niveau que l'OL ne le soupçonnait même pas à voir atteindre un jour lorsqu'ils le prennent à Milan, c'était un gros pari effectivement. effectivement, tu perds un super joueur, mais il y a encore tout ce qu'il faut dans l'équipe et dans l'effectif. Effectivement, il y a des gestions de joueurs et de, je sais pas, je comprends pas.
Même le système, je comprends pas.
Le cas de Dembélé, je comprends pas. Le cas du petit Fèvre, qui est un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, de notre championnat. Quand ils le prennent, tu dis, ah là là, ça c'est bien Lyon, ils savent toujours les prendre au bon moment. Pour l'instant, ça ne donne rien. Il est quasiment au placard. C'est effectivement incompréhensible. Et moi, j'avais beau. On a toujours de la sympathie. Le pédigré Ajax, t'as envie que ça marche, en fait, au fond, même quand t'es pas supporter lyonnais.
Bien sûr, on avait tous envie.
De Ligue 1, tu dis, on a envie que ça marche.
Belle philosophie.
Et au bout d'un moment, bah voilà, faut arrêter de s'entêter, en effet. Mais bon, tu mets qui pour,
c'est facile.
Pour utiliser tout ça.
Tu mets Laurent Blanc.
Ah, c'est facile. Bon.
Je ne dis pas que c'est la solution, mais je pense que c'est ce qu'ils ont en tête. Le rendez-vous a déjà été manqué avec le grand oral foiré Rudy Garcia qui a siroté la place.
Et est-ce que malheureusement Laurent Blanc, parce que c'est peut-être pas au niveau de ce que Laurent Blanc attend.
Oui, Laurent Blanc, je pense qu'il a dû comprendre. Il a compris que
vous avez vu la liste des clubs qu'il a refusé parce que ça correspondait pas.
Il a compris. Je pense qu'il a compris. Donc moi, je dis pas que c'est la solution, hein. Mais je pense que, voilà, c'est écrit qu'un jour il entraîne ce club-là. Et voilà, faut arrêter les frais.
Dans ce communiqué, spontanément également, la direction de l'OL évoque le cas Thiago Mendes. Voilà. Il est écrit, le choix Thiago Mendes en défense centrale n'a jamais été remis en cause en interne. Le match du Brésilien face au PSG témoigne de ses qualités pour évoluer à ce poste.
Quelle bouffonnade, excuse-moi.
C'est-à-dire qu'on prend le match face au PSG, effectivement, on est tous d'accord pour dire qu'il a été bon, hein, contre le PSG. Mais ce que les supporters lyonnais jugent, c'est l'ensemble de sa saison et surtout l'incohérence du choix de le faire redescendre en défense centrale. Je vais accueillir Pierrick au 32-16, supporter de l'OL. Salut Pierrick.
Salut tout le monde.
Dans Génération After. Que penses-tu de cet ultimatum? Alors, à Lyon, on l'appelle pas comme ça, on parle de temps de passage à respecter, de 17 points sur 24 avant la trêve. Est-ce que tu penses que Peter Bosz peut tenir ce temps de passage?
Non, je pense que s'il reste à ce niveau-là, enfin, si Lyon reste à ce niveau-là, je pense Bosz, il sautera avant. L'objectif, c'est clairement le top 3 pour le club, et bah là on n'y est pas, et si on continue comme ça on n'y sera pas, sachant qu'on a que le championnat, donc voilà. En plus tout n'est pas de sa faute, je pense. Le recrutement, c'est pas forcément ça lui est pas forcément imputable, mais il y a des choix qui sont pas trop compréhensibles. Cherki, par exemple, 80 minutes, enfin avant le PSG, il y avait 80 minutes de jeu, je crois, ou quelque chose comme ça. Thiago Mendes qui est redescendu en défense centrale. Il y a des joueurs qui, intouchables. Je pense que c'est un tout qui fait que, si on se rapproche pas plus du podium, il risque de sauter d'un courant de la saison. Il n'y a pas matière à le faire sauter maintenant, mais je pense que le coup de pression, il est légitime, ouais.
Légitime. Bah écoute, hein, en tout cas, il est réel ce coup de pression, malgré ce communiqué, ce démenti.
Quand tu dis qu'il n'y a pas matière à le faire sauter maintenant, mais que le coup de pression est légitime, mais tu vois vraiment des points, il y a vraiment des choses qui te laissent penser que ça peut s'arranger? T'as pas l'impression d'avoir atteint le point de non-retour, là?
Non, je pense pas non plus, parce que déjà, en fait, on est suffisamment tôt dans la saison pour, on n'est pas non plus décroché. Je veux dire, on n'est pas l'année dernière à la même époque, c'était beaucoup plus compliqué. Là, on a quand même gagné au début d'année des matchs qu'on gagnait pas l'année dernière, donc c'est un petit peu mieux. Il y a aussi beaucoup de changements de joueurs. Il teste aussi des dispositifs. Il a fait jouer Dembélé et Lacazette ensemble. C'était quand même pas désagréable non plus au niveau du jeu. Donc peut-être que ça va aussi s'améliorer. Et donc je pense qu'il n'y a pas matière à s'y mettre tout de suite. On a le temps. Il n'y a quasiment que le championnat à jouer cette saison.
Sauf que nous, on reçoit souvent des appels de supporters lyonnais au 32-16 qui nous disent on en a marre de dire qu'on a le temps avec Peter Bosz. Voilà. Maintenant, plus d'un an et demi qu'il est là et on ne voit pas d'évolution dans le jeu de l'OL. C'est ça qui est problématique. Ça, et la saison reprend comme elle s'était terminée. Certes, tu es 6e de Ligue 1, tu as 13 points sur 24 possibles.
Mais regarde le calendrier aussi.
Et le calendrier à venir, bien sûr.
Non, mais le calendrier
sans jouer de gros du championnat.
Les victoires, c'est Ajaccio 3, Angers.
Oui, mais il y a quand même, malgré tout, alors effectivement, c'est invendable aux supporters lyonnais qui n'ont plus l'habitude de ne pas jouer la Coupe d'Europe et qui sont, on le sait, très exigeants et on se met à leur place, évidemment. Mais il y a une autre lecture qui consiste à dire bon, ça n'a pas marché l'an dernier, tu as toutes les raisons de t'en séparer à l'intersaison. Bon, pourquoi mettre un coup de pression? Soit tu lui laisses effectivement une saison entière en disant bah gros on croit en toi, on va pas se dédire,
on croit en toi vas-y Simon,
on croit en toi, on et c'est un vrai engagement, tu vas y arriver, parce qu'effectivement s'ils gagnent lors de prochains matchs 3-0 oui, on aura tous l'air malin.
Il y a eu trop d'ultimatum fixé, rappelez-vous déjà l'année dernière conférence
bien
de presse,
sûr,
on lui laisse qu'en janvier. Je pense que la relation
est fragilisée depuis 6 mois,
c'est trop plus de bien trop longtemps. Pour dire que quoi qu'il arrive, quel que soit la lecture, l'ultimatum, c'est jamais la bonne solution. Soit tu lui laisses la saison, soit tu lui vires.
Mais c'est ce que tu essaies de nous dire, et que c'est clair, et je pense qu'on le partage tous cet avis-là, c'est que la politique sportive de l'Olympique lyonnaise n'a ni queue ni tête depuis des années. Alors c'est bien beau de venir faire le kékou en conférence de presse, Monsieur Chéroux, et de dire oui, notre mercato est formidable à tel point que Sampaoli s'est barré parce qu'il a peur de l'OL. Mais bon, ça, tu te le reprends comme un boomerang quand tu vois et le mercato que tu fais et le début de saison que tu fais. Et c'est malheureusement,
vrai, t'as raison, j'avais oublié.
La politique sportive de Lyon n'a ni queue ni tête. Quand tu prends Boss dès le départ, que tu lui prends pas des attaquants de couloir, que tu dis eh ben ça marche pas, alors finalement au mercato hivernal on va aller chercher Fèvre et Tété, ah mais oui, mais il leur faut du temps pour s'adapter, et puis là on dit qu'on veut un 6 mais on prend pas un 6, et le Penant il doit jamais être titulaire, au final le Penant il fait tous les matchs, et puis on doit aller prendre un défenseur central parce que mais non c'est Thiago Mendes, c'est ça, il y a trop de problèmes, il y a rien qui est mené d'une manière cohérente et tu le payes sur le terrain.
Pierrick, merci d'être venu confronter ton avis à ceux de Jonathan et de Simon dans Génération After. À très bientôt.
Salut Pierrick.
Bonne soirée. À très vite. Les directs. Italie, Angleterre. Salut Bonne Galilée.
En troisième, toujours 0-0 entre l'Italie et l'Angleterre. Mais les Anglais se sont procurés à l'instant une belle opportunité. Un contre, un 3 contre 3 avec Harry Kane à 20 mètres qui a tenté la frappe qui est passée juste au-dessus de la cage de Gigi Donnarumma. Les Anglais qui finissent mieux cette première période. Toujours 0-0 entre les deux.
Et toujours 1-0 hein, à l'approche de la mi-temps pour la Hongrie sur le terrain de l'Allemagne. Un but de Zalaï. Pourtant, l'Allemagne qui a mis l'équipe, hein, les gars. Hein. Kimmich, Gundogan, mieux terrain. Gnabry, Müller, Sané. Timo Werner devant, voilà. Rudiger, Zule en défense centrale. Allez, on revient dans un instant, les gars. Je vous rappelle l'information de la soirée également pour vous, supporters marseillais. Marseille jouera à huis clos son rendez-vous, prochain rendez-vous avec des champions au Vélodrome face au Sporting et à huis clos partiel, virage nord fermé pour l'ultime journée face à Tottenham, la 6e en face de poule de Ligue des Champions. Vous écoutez Génération After, il est 21h30, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC, 21h34. Merci d'être avec nous ce vendredi soir avec Jonathan Macardy et Simon Dutin également à 22h. Thibaut Jogrand accompagné de Coach Courbis et Kevin Diaz. Messieurs, pour vous dire que c'est la mi-temps entre l'Italie et l'Angleterre, un match pourri, 0-0. Voilà. Un tir côté italien, deux tirs côté anglais, 0-0.
Ça fait 0-0 à l'aller, non, en Angleterre aussi, me semble.
À vérifier. Possible. 3-0 pour le Brésil en amical au Havre. Ça va reprendre dans un instant face au Ghana. Et l'Allemagne, à la mi-temps, est menée 1-0 à domicile par la Hongrie. Un but de Salah inscrit à la 17e minute de jeu. Avis de Jonathan Macardy. L'Olympique de Marseille, Longoria, est en train de professionnaliser l'OM. Tu nous diras pourquoi et comment. Jingle Macardy.
Bravo. Tu avais le choix, Corinne. Est-ce que tu prendrais Jonathan Macardy avec toi?
Je crois pas, honnêtement.
Amitié à Ludo Bragnac, hein,
bien sûr.
Ancien de l'after du week-end, notamment, avec qui on s'est régalé. C'était il y a longtemps maintenant.
L'after de l'élégance, c'est original.
C'est lui qui l'a lancé, le concept, d'ailleurs. C'est lui l'affaire de l'élégance. Bref, ton avis à venir fait écho à un article paru dans le journal L'Équipe qui fait état de tension à l'OM dans les bureaux dirigeants. D'un côté, un clan espagnol, de l'autre, un clan français. Oui. Par exemple, hein, si tu veux quelques citations?
Vas-y.
On lit dans l'article que Pablo Longoria a dit s'il y a des mauvais résultats cette semaine, c'est qu'il y a une mauvaise ambiance au club. Il dit également le premier jour où je suis arrivé au club, à l'été 2020, j'ai vu Steve Mandanda manger un hamburger. Marco Otero, directeur technique du club, dit dans ce club, il n'y a pas d'identité. Voilà.
Bah, écoute, moi, j'ai pris cet article avec beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction, parce que je pense que l'Olympique de Marseille va dans le bon sens. Alors, il est vrai qu'il y a quand même une situation très instable à la tête des postes administratifs à l'OM. Hein. On se rappelle, quand Longoria arrive, très tôt, il décide de l'éviction de l'ancien directeur général adjoint, qui s'occupait notamment de l'exploitation du Vélodrome, c'était Thierry Aldebert, qui avait lui-même des relations un petit peu orageuses avec la majorité des groupes de supporters et leurs représentants. Il y a Nathalie Zimmermann qui n'a fait qu'un an à son poste de directrice générale adjointe en charge du marketing, ce qui était quand même un petit peu curieux parce que c'était une personne qui avait fait du bon travail. T'as David Friot qui enchaîne les postes tous plus différents les uns que les autres, même si ça reste dans le sportif, qui est passé de chef scout et qui là a été directeur sportif. Mais ça se passe pas très bien avec Pablo Longoria apparemment, c'est un peu devenu sa tête de turc. Alors c'est vrai que si on regarde, tu regardes un petit peu tous les postes administratifs, et je parle pas du centre de formation parce que alors là, faudrait un quart d'heure pour tout expliquer. Ben il y a beaucoup de turnover et je peux comprendre que ça soit difficile pour beaucoup de répondre au niveau d'exigence de Pablo Longoria, mais surtout de travailler avec un mec qui a cette personnalité-là, qui est un mec qui est obsessionnel. On sait qu'il est capable de t'appeler à 3-4 heures du matin pour parler d'un dossier ou d'un autre, qui dort pas
et
beaucoup.
Et de répondre à 3 heures du matin aussi.
Exactement. Et que ça peut donc être très compliqué de suivre le rythme de Longoria. Mais moi, ce que je vois, c'est que je connais bien l'OM. On connaît tous bien l'OM et ce genre de restructuration, elle est indispensable. Alors certes, elle va se faire avec perte et fracas. Il va avoir de la casse, mais c'est un club qui historiquement n'a jamais fonctionné de manière professionnelle. Alors je parle pas forcément du mandat de Jacques-Henri Hérault, mais j'ose même remonter au mandat de Pape Diouf, le plus grand président de l'histoire de l'OM selon moi. Selon lui, il y avait des choses au club qui se passaient qui n'avaient pas lieu d'être dans un club professionnel. On se rappelle tous des affaires avec Thomas Derouda, avec Jean Fernandez, des choses, des phénomènes exogènes extérieurs au club qui venaient gangréner le club avec des
sales histoires. Exogènes extérieurs, c'est pareil. Oui. D'accord.
Mais je l'ai répété pour accentuer.
Dictionnaire des synonymes.
Non, j'ai voulu le répéter pour accentuer.
Okay, c'est
des éléments extérieurs, très extérieurs au club, avaient une emprise totalement négative sur le fonctionnement de ce club-là. Qu'il y a beaucoup trop de gens à Marseille qui ont croqué sur le fonctionnement du club parce qu'il n'y avait pas un fonctionnement professionnel qui était mis en place. Alors, c'est vrai, hein, ça va faire de la casse. On le voit. Il y a du turnover très, très fort. En général, quand les consultants, c'est cher à la Macronie, qui viennent analyser le fonctionnement d'une entreprise, ils disent s'il y a trop de turnover, c'est que ça va pas bien. C'est vrai. Mais là, en l'occurrence, je pense que le turnover, il est nécessaire. Et donc, moi, cet article de l'Équipe, écoute, j'ai pas du tout été alerté parce qu'il a un ton qui est totalement alarmiste. Hein. C'est de dire, il y a tout qui part à volo et du coup, en fait, l'Équipe va plus gagner un match. Ça, il y a un petit côté sensationnel que j'ai pas forcément apprécié. Merci. Je pense qu'il y a eu des éléments, notamment le coup du hamburger de Mandanda. Je pense que on sort certains mots de la bouche de Longoria pour un petit peu faire mousser l'article. Je sais aussi, et ça n'engage que moi, que certains journalistes de l'Équipe n'ont pas des très bonnes relations avec la direction actuelle de l'OM. Mais bon, cet article-là, moi, contrairement au fait de m'alarmer,
tu dirais qu'il m'a voulu se faire Longoria plaisir comme ça, là?
J'ai l'impression.
Ou le déstabiliser, en tout cas.
J'ai l'impression. C'est le sentiment que j'ai. Ça n'engage que moi. Ouais. Mais c'est l'impression que ça m'a donné. Et moi, tout ça pour dire que, cet article, je pense qu'il est, je suis très content. Marseille a besoin, depuis des années, de cette restructuration, d'arrêter de fonctionner un petit peu, tu sais, comme le club du Sud, où on certes, dans la main, il y a des arrangements, on s'arrange, et puis je te la mets à l'envers, etc. Il faut que ça s'arrête. Longoria l'a identifié, il met tout en place pour ça, et c'est très bien.
Bon, ce qui est étonnant, tenez la parole, Simon, c'est que dans cet organigramme-là, la plupart des hommes et des femmes ont été nommés par Longoria. Et d'ailleurs, dans l'article, hein, une citation d'un membre de la direction haut placé dit « Longoria veut réformer une organisation qu'il juge bancale, mais qu'il a lui-même mise en place ».
Mais j'ai oublié de le dire juste avant de te laisser la parole, Simon aussi. C'est pourquoi j'ai confiance. C'est
que
aussi,
j'ai planté un petit peu, quoi.
Longoria.
Et qu'il y a deux clans, un français et un espagnol.
Longoria est un président qui a zéro expérience, qui apprend sur le tas et qui forcément va être amené à commettre des erreurs en apprenant à endosser ce costume de président. Mais qu'il identifie les problèmes, même si c'est lui. Tu sais, je pense que c'est beaucoup plus dur de dire bah ça marche pas quand c'est toi qui l'as mis en place. Bah, c'est de mettre ton propre nez dans tes propres excréments.
Justement, quand tu progresses de façon empirique, tu peux pas en même temps donner autant de leçons que Longoria. Moi, je me méfie. Je suis d'accord peu ou prou avec tout ce que t'as dit parce que professionnaliser un club et effectivement apporter de la rigueur, des obligations de résultats dans les coulisses également. Je pense que c'est important. Je me méfie quand même de la caricature et effectivement, moi justement, c'est effectivement il a dû apprécier Steve Mandanda après 15 ans de fidélité au club, lui qui était un peu le papa, qui est quand même, je pense, un exemple de professionnalisme. Voir, bah attends, excuse-moi, Mandanda il bouffait des hamburgers, tu te rends compte, j'ai entendu, bon il est plus
sur
là.
Sur les 5 dernières saisons, il y a 2 très mauvaises saisons de Steve et ces deux très mauvaises saisons, il a un ventre énorme.
Je me suis demandé pourquoi cette phrase et pas une autre après. Nico, tu le rappelais, c'était mon seul argument. Effectivement, c'est quand même des gens que apprend-on, il a nommé. Donc effectivement, il faut toujours mieux tirer le frein à main ou sortir l'extincteur quand tu te rends compte que de tes propres conneries. Mais bon, je trouve ça un peu caricatural. Voilà,
de quel côté?
La présentation qui en est faite et en tout cas l'opinion qu'on prête à Longoria, à savoir cette espèce de catastrophisme qui du coup se transforme en pression énorme sur les salariés du club. On va droit dans le mur, c'est catastrophique, on va plus gagner un match si vous continuez à bosser comme ça. Bon, je suis pas convaincu que ce soit la bonne façon pour avancer. Cela étant dit, je prête énormément de qualité à Longoria qui n'a cessé de me surprendre depuis son arrivée au club. Donc jusqu'à preuve du contraire, laissons-le réformer ce club.
Il est exigeant. Il est juste exigeant. C'est un niveau d'exigence auquel on n'est pas habitué en France. Lui et Ribalta, ont été habitués à ce niveau d'exigence dans les clubs où ils sont passés. Ils veulent l'instaurer à l'Olympique de Marseille. Je le répète, c'est un club qui empiriquement a toujours fonctionné n'importe comment, même sous Pape Diouf, qui tenait quand même pas mal de choses. Donc je trouve que c'est une très bonne chose de changer ça.
Mais tu vois, il y a une maladresse aussi quand tu laisses un de tes collaborateurs dire c'est un club dans lequel il n'y a aucune identité. Alors même si on voit peut-être ce qu'il veut dire, tu peux pas vendre aux Marseillais que leur club il a pas d'identité. Je suis désolé. Tu peux.
Pas le sens.
C'est une bêtise. Franchement, c'est une énorme malade. Oui, mais regarde, tu sais très bien comment les propos sont. Tu bosses à la radio, comment les propos peuvent être reçus, les paroles peuvent être reçues. Tu dis pas à Marseille quand t'as des responsabilités, c'est un club qui a aucune identité. Et moi, je vais vous apprendre un peu, on va mettre de l'ordre là-dedans. Je pense que il y a une maladresse, il y a une volonté d'agir un petit peu trop vite, un petit peu trop fort, et que en tout cas, dans la façon dont c'est rapporté, moi, je pense que ça peut créer des.
Mais si Jean-Marc Hérault avait dit ça, dans ce club, il n'y a pas d'identité.
Mais alors pour moi la phrase
de Marco, le pire c'était il y a trop de Marseillais.
La phrase de Marco Otero là, j'aimerais bien connaître savoir le contexte. Et si le contexte c'est de dire qu'il y a pas d'identité, l'identité marseillaise au sein des étages administratifs, c'est peut-être parce que Jacques-Henri Hérault a fait la connerie de virer tous les Marseillais et de prendre trop de mecs débarqués de la Startup Nation, j'allais dire un gros mot, t'as vu, Startup Nation de mes bips, et qu'il a gangréner les départements administratifs de l'OM par des mecs qui n'y connaissent rien, qui n'avaient jamais rien à faire là.
Voilà pour Marseille, messieurs. Dans un instant, on va parler d'un adversaire de l'équipe de France au Mondial, au Qatar, la Tunisie, qui sera mardi soir à Paris, au Parc des Princes. Tunisie-Brésil, le Brésil justement qui affronte actuellement le Ghana au Havre sous les yeux de Valentin Jamin. Valentin.
Oui, 49 minutes de jeu, toujours ce score de 3-0 pour le Brésil. Marquinhos, doublé de Richarlison, un changement côté brésilien à la mi-temps, Thiago Silva remplacé par Bremer, alors que Souleymana côté ghanéen notamment est sorti, remplacé par Iñaki Williams. On a également vu Salisu, le joueur de Southampton, prendre place pour les Ghanéens, mené 3-0 après 50 minutes de jeu face au Brésil.
Avec ton micro, Jonathan.
C'est quand même, quand tu es capable de mettre Bremer sur le banc par exemple, ça veut dire que t'as quand même un sacré effectif.
Un gros réservoir devant et derrière.
Un petit résultat, les gars, l'équipe de France Espoir s'est imposée en Allemagne 1-0 grâce à un but d'Amin Gouiri, à la 52e. Les A allemands, eux, à la mi-temps, sont menés 1-0 par la Hongrie, 0-0 entre l'Italie et l'Angleterre dans le groupe 3 de la Ligue des Nations. La Ligue A, dans un instant, la Tunisie au programme. On ira faire un tour à Londres pour dire adieu à Roger Federer avec Eric Salio qui est sur place. A tout de suite, c'est Génération After sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
21h47, Génération After RMC. Merci d'être avec nous. Jonathan McCarty, Simon Dutin à mes côtés. Dans un instant, on parle de la Tunisie qui sera au Parc des Princes mardi soir pour affronter le Brésil. Le Brésil qui est sur le terrain actuellement, Valentin Jamin, au stade Océane du Havre face au Ghana.
Et qui est facile, 56 minutes de jeu, 3-0 pour le Brésil. Marquinhos, doublé de Richarlison et corner à venir pour les Ghanéens qui essaient de refaire surface. 3-0 pour le Brésil.
45 000 places vendues en 3 jours pour ce match au Parc des Princes mardi soir Brésil-Tunisie. Il y aura beaucoup beaucoup de Tunisiens, bien sûr, on en parle dans un instant. D'abord un petit salut à Eric Salio qui est à Londres, il a de la chance, il aurait pu payer 80 000 euros pour y être, c'est gratuit, une accréditation, il est à l'O2 Arena pour dire adieu à Roger Federer. Bonsoir Eric.
Salut Nico, Eric. Bonsoir à tous.
Raconte-nous ce que tu vois, je vois Djokovic au bord du court par exemple déjà.
Oui, parce que c'est le premier simple de cette night session qui oppose depuis 1h27 maintenant Andy Murray et Alex de Miller. Et c'est un match qui n'avance pas. C'est-à-dire que ça retarde d'autant l'entrée sur le court de Roger Federer. Mais non, on sent qu'il y a une atmosphère très particulière depuis tout à l'heure, depuis environ 2 heures, puisque les spectateurs qui ont la chance d'avoir le billet gagnant, ils ont presque gagné au loto. Bon, bah, ils vont vivre un truc historique et l'échauffement, l'ultime échauffement de Federer, c'était un vrai événement qui a été mis en scène par la Lever Cup, puisqu'il s'est entraîné sur un cours éphémère. Et sachez que des gens faisaient la queue. Et il y avait une procession pour assister, mais 20 secondes, à l'entraînement de Federer avec Nadal, avec un monsieur qui disait quick, dépêchez-vous pour que tout le monde en profite, puisse prendre une photo. Donc c'est vraiment.
Tu utilises des termes religieux, quoi, presque.
Exactement, l'entraînement de la reine, on a l'entraînement d'un roi. Mais ça se passe dans d'autres circonstances beaucoup plus joyeuses, heureusement. Non, mais c'est un véritable événement et on attend maintenant.
Mais toi, dis-nous comment tu le vis, toi, qui suis le tennis depuis tellement d'années.
Je suis très serein. Mais j'attends de voir.
Tu vas pas jouer, évidemment, c'est parce que
comment je vais être au micro si jamais on est en direct?
Tu vas être ému, tu penses?
La balle de match, je pense que oui, ça peut être très émouvant.
Petite larmichette, là, peut-être, Eric Salio.
Pourquoi pas? Bah oui, il y a eu la larmichette avec Tsonga au printemps à Roland.
Mais là, c'était un vrai match, là, c'est une exhibition. Bon, voilà.
Bref. Oui, mais enfin, on entend.
On va faire le débat.
C'est
bon.
Le dernier match de Federer. C'est quand même
pas
rien.
C'est vraiment un match, chez Eric.
Mec. Ouais. Non, je suis d'accord, mais il y aura forcément une immense émotion.
Il fera d'autres matchs d'exhibition en plus dans sa carrière, tu vois. Donc en fait, on verra.
Il y a un vrai match en plus. Il y aura une opposition en face où ils vont se faire éclater.
Ah, je peux te dire que Jack Sock, c'est pas un marrant. Et ils adorent endosser le rôle de vilain avec Frances Tiafoe. Ils veulent vraiment gagner. S'ils peuvent botter les fesses aux vieux entre guillemets, ils vont pas se gêner.
Bon,
surtout que. Pour l'anecdote, le reste du monde, enfin, ils sont un peu à la bourre au niveau du résultat parce qu'il y a déjà 2-0 pour l'Europe et que Murray mène 1-7-0 face à dominant. Donc ça peut faire 3-0 au moment où Federer et Nadal vont entrer sur le court. Mais ça, c'est pour l'anecdote, tu as raison.
La dernière de Federer avec Eric Salio à partir de 22h30, peut-être, dans l'after sur RMC. Je vous le disais, dans le groupe de la France au Mondial au Qatar, troisième match des Bleus sera le 30 novembre, ce sera face à la Tunisie. Tunisie qui a joué d'ailleurs hier soir dans les Yvelines, qui a battu les Comores 1-0. Avec un joueur qu'adore Jonathan, Saifedean Rahoui, titulaire.
Adore.
T'en parles exagéré. Acteur, hein.
Non,
tu regrettes.
Bien sûr. Non, faut pas exagérer. Je pense juste qu'à l'époque du marasme olympien, là où il jouait, je pense qu'il aurait pu avoir un petit peu plus sa chance.
Alors, messieurs, pour nous dire ce que vaut et ce qu'ambitionne cette sélection tunisienne au Mondial, nous sommes avec un journaliste tunisien d'une radio très connue sur place. C'est Mosaïque FM, première radio privée de Tunisie. Ahmed Adala est avec nous. Salut Ahmed.
Bonsoir Nicolas, bonsoir Simon, bonsoir Jonathan.
Bonsoir Ahmed.
Salut Ahmed.
Heureux de t'accueillir dans Génération After, Mohamed. Bon, comment tu vis ces 58 jours justement avant le Mondial? Dis-nous en plus sur la Tunisie, parce que je crois savoir qu'il y a un regain d'espoir, notamment quand vous regardez la liste de blessés en équipe de France là.
Bah oui, avec beaucoup d'espoir, mais en même temps, on a eu peur parce que la France, c'est 5 joueurs par poste minimum. Donc, autant de blessés, mais autant de remplaçants pour les joueurs cadres parce que ce qu'on a vu hier, par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être présents lors de la Coupe du Monde alors qu'ils n'ont pas participé à la campagne, par exemple, ou qu'ils n'ont pas disputé la totalité des derniers matchs avec la sélection française. Mais nous, en Tunisie, on attend cette Coupe du Monde avec beaucoup d'impatience et avec beaucoup d'espoir pour espérer enfin, pour la première fois, aller au second tour d'un mondial. C'est notre 6e participation. Je pense qu'on a le même nombre de participations que le Danemark, mais on espère vraiment que cette fois-ci, ça sera la bonne parce qu'on va le disputer dans un pays où il y a au moins 30-35 000 Tunisiens, des ressortissants tunisiens qui vivent là-bas.
Il y aura un grand soutien sur place au Qatar pour la Tunisie. Tu disais à l'instant, Ahmed, 6e participation à un mondial. Dis-nous ce que vaut cette équipe, parce que tu me dis qu'il y a de l'espoir au pays. Quel est son niveau réel aujourd'hui?
Bah, c'est une équipe qui est capable de créer la surprise. On se rappelle tous de ce qui s'est passé, par exemple, lors de la dernière CAN. On avait pratiquement raté le premier tour. à cause des cas Covid. Mais après, au second tour, on avait vraiment surpris tout le monde. On avait battu le Nigeria avec un slalom, un excellent but de Youssef Lemsekni. Pour l'anecdote, c'était Jalel Khadri, l'actuel entraîneur qui était à l'époque l'entraîneur adjoint qui avait dirigé ce match parce que l'entraîneur principal, Mondver Lekbayer, il avait le Covid. Donc voilà, du coup, on est capable de surprendre. On était capable même d'aller plus loin, mais encore une fois, lors de la CAN, c'était notre bête noire, le Burkina Faso. On s'est fait éliminer face à une équipe qui était plutôt prenable. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la Tunisie, face aux grands, face aux géants, généralement, on rend des très bonnes copies, de très belles copies. Quand, par exemple, c'était le cas lors du Mondial 2018, on était à deux doigts d'arracher un nul historique face à l'Angleterre.
C'est vrai, je me souviens. Ouais. Jonathan, Simon, une question à poser à Ahmed.
Moi, c'est une question sur votre avancante, la Kenissi. Il y a souvent, dans les sélections maghrébines, ce genre de numéro 9 qui marque des buts en pagaille sur le continent. Et on a toujours un petit peu du mal à connaître leur vrai niveau. Là, j'aimerais savoir, en fait, qui il est, Kenissi. Est-ce qu'il est vraiment capable d'être performant en Coupe du Monde? Parce que quand on regarde ses stats, c'est impressionnant.
Yassine Khnissi, c'est un ancien joueur de l'Espérance Sportive du Tunis, le club qui avait remporté deux Champions League de suite. Il faisait partie de l'équipe, il avait une très bonne formation à l'Espérance Sportive du Tunis, puis il est parti au club sportif saxien. Aujourd'hui, malheureusement, on le dit peut-être, entre guillemets, il joue dans un championnat beaucoup moins huppé au Koweït, c'est ça. Mais avec Khnissi, il y a aussi le Saifedine Jazir, l'attaquant du Zamalek, le club égyptien. Mais cette équipe, c'est en 98, j'avais lu un rapport publié par 11 Mondial sur cette sélection tunisienne qui se préparait à participer à la Coupe du Monde 98 en France. Et le titre, il m'a vraiment attiré. Ils avaient dit la Tunisie, cette équipe des ailes. Donc finalement, c'est une équipe des ailes. C'est une équipe qui peut surprendre. On a d'autres attaquants neufs. On a par exemple Saifedine Jazir, donc comme je l'avais dit, on a encore ton ami, peut-être il peut évoluer en attaque, même si il est beaucoup plus utilisé en milieu de terrain, Saifedine El Khaoui.
C'est un joueur côté,
peut évoluer dans les deux postes. Mais aussi on a un excellent Wahb El Khazri. Je me rappelle très très bien, moi par exemple, Wahb El Khazri, il était tout le temps un 10, et quand Sabri Lamouchi débarque à Rennes, il le met en 9,5 en 9, et on a tous vu ses buts marqués lors du Mondial 2018. Donc l'équipe, elle est plutôt homogène. On a le mélange entre l'expérience et les jeunes. La tendance dans la Tunisie d'attirer les binationaux, Hanabal El Majbri, Cheikh Mejbeli, le dernier arrivé, Saifedine El Taïf. Donc on a vraiment une équipe plutôt capable de créer la surprise.
Justement, Ahmed, bonsoir. Moi, je voulais te poser la question sur justement le petit Mejri là de Manchester. Il est encore très jeune, il joue pas beaucoup là. Il est prêté en deuxième division anglaise. Qu'est-ce qu'on attend de lui en Tunisie? Est-ce qu'il y a beaucoup d'espoir quand même, ou est-ce que on reste très prudent?
Je vais pas dire que c'est la star de l'équipe nationale, parce qu'on a déjà Youssef Lemsekni, on a aussi Wahb El Khazri, qui ce sont le capitaine et son vice-capitaine, le deux stars de cette sélection, même si la Tunisie repose toujours sur un jeu collectif. Mais Hanabal Majbri, c'est le porteur d'espoir. C'était le premier grand coup réussi par la direction du suivi des joueurs expatriés. Entre guillemets, nous, en Tunisie, on le voyait déjà partir choisir l'équipe de France, mais finalement, il avait choisi de représenter la Tunisie, d'endosser le maillot de la sélection tunisienne. Après, il est parti à Manchester. On s'attendait beaucoup de lui. Il joue pas. Il lui manque un peu d'encadrement, peut-être, je ne sais pas. Mais là, il part à Birmingham au dernier jour du mercato. Il a joué peut-être 20, 25, 30 minutes lors des trois matchs avec Birmingham. On attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui. On l'a vu lors de la Coupe Arabe FIFA. C'est le porteur d'espoir de la prochaine génération de la sélection tunisienne.
Ahmed Adala de Mosaïque FM. Merci Ahmed d'être venu dans l'after. C'est un plaisir de t'accueillir. Et puis on te reverra au Qatar. Tu seras là?
Inch'Allah, oui, comme on le dit en arabe.
Alors on se croisera peut-être au Qatar. Oui. On garde ton numéro pour nous éclairer sur la sélection tunisienne que la France affrontera le 30 novembre, dernier match de la phase de poule. Dans un instant, l'after prend la main à 21h57 avec Thibaut Jean-Grande. Je suis sûr qu'il ne va pas parler de l'équipe de France, ni de Mbappé, ni quoi que ce soit. peut-être beaucoup plus créatif que ça.
Pas en deuxième heure, effectivement. À partir de 23h, il n'y aura pas d'équipe de France. Ce sera l'OGC Nice, ce programme. Fabre qui est maintenu finalement, supporter niçois 32-16. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? On prendra des nouvelles de nos supporters des Bleus qui sont partis il y a un mois en vélo au Qatar. Ils ont leur billet en poche et ils rejoignent Doha en vélo. Voilà. Bilan carbone très bon. Ils sont en Turquie, là, mi-chemin. On leur passera un coup de fil. Et puis sinon, dans un instant, entre 22 et 23, on parlera peut-être un peu de l'équipe de France, un peu de Kylian Mbappé, pourquoi pas avec Roland Courbis, avec Kevin Diaz. Et on vous attend évidemment au 32-16, supporters de l'équipe de France. À tout de suite.